BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Thomas Asportas.
Il est bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Thomas. Bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, on attend toujours la composition du nouveau gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre s'est entretenu à nouveau aujourd'hui avec le chef de l'État avant qu'il ne parte pour Mayotte. En attendant la fumée blanche, toute cette incertitude commence à peser lourdement sur l'économie française. Ça se voit de plus en plus dans les chiffres. On va en parler ce soir avec nos experts et puis évidemment avec votre invité aussi.
Oui, absolument. On va en parler. C'est Jean-François Rial, il est le patron de Voyageurs du Monde. Lui, il dénonce cette instabilité politique en disant ben voilà, ça pèse sur le moral des chefs d'entreprise. Et puis surtout, ben, lui, il appuie sur la pédale frein vis-à-vis des investissements. Et puis, la période veut qu'on parle de ça. Voyageurs du Monde, les plus beaux voyages. Est-ce que les Français ont envie de voyager? Eh bien, la réponse est positive.
Bon, on voit ça dans 10 minutes. L'actualité, c'est aussi cette possible très grosse opération dans l'automobile, puisqu'après des mois de discussion, Nissan et Honda nous disent maintenant envisager sérieusement une fusion. On verra ça avec Justine Vasson. Et puis dans la banque, ça bouge là aussi, puisqu'UniCredit est encore monté au capital de l'amende Commerzbank, tout en maintenant ses ambitions sur l'italienne Banco BPM. Ça nous fait encore beaucoup d'actu à décrypter ce soir. On est en direct jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Et on commence donc avec cette possible très grosse opération dans le secteur automobile, puisqu'après des mois de discussions, Nissan et Honda disent maintenant réfléchir à une fusion. Bonsoir Justine Vasson.
Bonsoir Thomas.
Sur le papier, Justine, l'opération donnerait naissance au troisième constructeur mondial en termes de vente.
Oui, absolument, ça a de quoi faire rêver ensemble, Nissan et Honda. C'est une entreprise de plus de 50 milliards de dollars, ce sont plus de 7 millions de voitures produites par an. Sur le papier, hein, parce qu'en réalité, Nissan et Honda aujourd'hui font face à des vents contraires, des difficultés en Chine, une transition chaotique vers l'électrification. À ce jeu, c'est Nissan clairement qui perd le plus. Le constructeur a déjà réalisé 2 profit warnings cette année. Il a annoncé la suppression de 9000 postes. Son PDG est sur la sellette. Des fonds activistes sont entrés à son capital. Bref, Nissan est au bord du gouffre, en tout cas pas loin du bord. Mmh. Une alliance avec Honda pourrait évidemment lui redonner de l'aide. Certains glissent tout de même que Honda, un plus petit en taille que Nissan, mais dont la capitalisation est 4 fois plus importante, aurait eu quelques réticences avec cette question. Faut-il vraiment aller s'embourber chez Nissan? Les discussions se seraient accélérées ces derniers jours, selon Bloomberg, parce qu'un troisième acteur a montré le bout de son nez, le Taïwanais Foxconn, qui serait lui aussi sur les rangs pour rentrer au capital de Nissan. On devrait en savoir plus très vite, d'après plusieurs médias. On attend une conférence de presse lundi prochain, organisée de concert par Honda, Nissan et son partenaire Mitsubishi.
Bon, et puis alors au milieu de tout ça, il y a Renault, évidemment, le principal actionnaire de Nissan. Quelles conséquences pour le constructeur français?
C'est une très bonne nouvelle pour le constructeur français, qui a fini la journée à peu près en hausse d'un peu plus de 5% en bourse. Voilà, c'était tout à l'heure. Depuis plusieurs mois, Renault voit Nissan lentement décliner. Nissan est en train de s'effondrer, nous dit-on en interne. Cela pèse directement sur les comptes de Renault, dont le résultat est encore lié à celui de Nissan. De plus, le cours de bourse de Nissan ne cesse de dégringoler depuis des mois, et cela empêche Renault de tirer un bon prix de la vente de ses actions.
Tout à fait.
Nissan, alors, 2 scénarios s'ouvrent aujourd'hui. Le plus probable, Renault continue de se désengager de Nissan, mais cette fois en revendant des actions dopées par la fusion, parce que rien qu'aujourd'hui, Nissan a gagné 24%. Ouais. Après ces rumeurs de fusion. Soit Renault, au contraire, reste actionnaire, bien que très minoritaire, ce serait autour de 5% du nouvel ensemble. Cela veut dire plus de dividendes, des synergies potentielles avec le futur troisième constructeur mondial. Alors Renault ne commente pas ce soir une fusion qui s'écrit encore au conditionnel, mais tout ce qui peut faire du bien à Nissan, nous dit-on, est bon pour Renault.
Ouais.
Renault, qui, je vous le rappelle, détient encore aujourd'hui plus d'un tiers des parts de Nissan, aura de toute façon un droit de regard sur cette fusion.
Bon, et donc une conférence de presse, visiblement, dans les prochains jours. En tout cas, à suivre de près. Merci beaucoup, Justine Vasson. Sinon, eh bien, c'est un petit événement qui va se produire ce vendredi en France, puisqu'après 12 ans de retard, le EPR de Flamanville va enfin être accordé au réseau. Le réacteur va atteindre vendredi 25% de sa puissance maximale, et c'est à ce moment-là que Flamanville, techniquement, opérationnellement, va être couplé au réseau. Raphaël Couder.
Un nouveau cap symbolique bientôt franchi pour l'EPR de Flamanville. Après une première fission nucléaire en septembre, 3 mois de tests, d'arrêt et de redémarrage, le réacteur doit en principe être connecté au réseau électrique français ce vendredi. Techniquement, cela signifie que l'EPR va injecter ses premiers mégawatts sur les lignes d'électricité. Ce couplage représente une première depuis 25 ans en France et il arrive juste à temps pour EDF. Le groupe prévoyait en effet de passer cette étape avant la fin de l'automne. Une fois réussi, l'EPR va poursuivre sa montée en puissance. De nouveaux essais doivent lui permettre d'atteindre sa puissance maximale l'été prochain. Il fonctionnera alors jusqu'en 2026 avant de s'arrêter pour une première maintenance. L'EPR de Flamanville deviendra ainsi le 57e réacteur du parc français et de loin le plus puissant. Il arrive dans un contexte de fort redressement de la production nucléaire. La France va battre cette année son record d'exportation nette d'électricité.
Raphaël Coudert, 18h05, on vous parle maintenant de l'envolée des tarifs des mutuelles qui vous attend l'an prochain. Plus 5,3% pour les contrats individuels, plus 7,3% pour les contrats collectifs, d'après les chiffres publiés ce matin par la Mutualité française. Une très forte hausse qui intervient dans un contexte incertain pour les mutuelles. Hélène Cornet.
C'est une véritable envolée des prix, bien supérieure à l'inflation, bien supérieure aussi à la hausse moyenne des 10 dernières années, autour de 2,6%. Une augmentation inévitable, selon la Mutualité française, pour prendre en compte la hausse structurelle des dépenses de santé. Éric Chenu, son président.
Les dépenses de santé, elles évoluent 2 à 3 fois plus vite que la richesse nationale. C'est-à-dire que l'effort que l'on fait individuellement et collectivement pour se soigner, il augmente. Et il va continuer d'augmenter parce que la population vieillit, parce qu'il y a de nouvelles techniques médicales, mais tout ça a un coût. Et aujourd'hui, que ce soit la prise en charge par l'assurance maladie ou par les complémentaires santé, il faut qu'on puisse le financer chaque année.
À cela s'ajoute la prochaine revalorisation de la consultation chez les généralistes, le transfert de charges aux complémentaires comme les frais dentaires, une augmentation au niveau strictement nécessaire assure pourtant la mutualité. Et ce n'est qu'une estimation, faute de visibilité, les mutuelles ont affiné leurs tarifs en se basant sur le projet en préparation du financement de la sécurité sociale pour 2025, projet en suspens en raison de la censure. Des ajustements à la hausse comme à la baisse sont à prévoir quand il sera réellement voté au Parlement.
Hélène Cornet. Et puis pour finir, on va parler de vos enfants, on va parler de vos ados, parce que ça y est, les formations disponibles en 2025 sont en ligne sur Parcoursup. Sauf que vous avez dû en faire l'expérience, choisir les bonnes formations est devenu tellement compliqué et tellement stressant qu'un nouveau business a vu le jour, coach en orientation. Léa Rojo.
Dans le labyrinthe des formations, certains ont trouvé la solution. Faire appel à un coach privé pour sélectionner ses vœux. Sophie Laborde-Baleine, fondatrice du réseau Mon Avenir, composé de 40 coachs en Ile-de-France, propose un accompagnement sur mesure.
Sur la base des bulletins et du profil de l'élève, on établit une liste de vœux Parcoursup qui est plausible. Cette liste, c'est important qu'elle soit plausible, donc accessible. Et puis après, nous donnons des explications et un accompagnement sur les lettres de motivation. Et tout se passe très bien comme ça.
Cette année, le cabinet enregistre 20% de demandes en plus. Selon Isabelle Andrieux, présidente du collectif Orientation, cette hausse des demandes est liée au manque d'heures dédiées à l'orientation dès la troisième.
Et aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces heures dédiées, elles peinent à être mises en place pour des raisons essentiellement de moyens, de temps et de moyens. Les professeurs ne sont pas forcément équipés, formés, n'ont pas le temps de le faire. Et donc, du coup, parents étant pas forcément complètement acculturés à la réforme du lycée, aux programmes, aux incidents sur Parcoursup, etc., et ben de ce fait, les parents se retournent vers, quand ils en ont les moyens, vers des coachs.
Les séances avec un coach privé sont comprises entre 90 et 1000 euros en fonction du cabinet. Isabelle Andrieux milite pour un socle commun de la troisième à la terminale pour préparer l'ensemble des élèves à Parcoursup.
Léa Rojo, 18h08, on va sur les marchés. La clôture des marchés à Paris avec vous Antoine Larigauderie. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Résultat des courses ce soir.
Résultat, une hausse, plus 0,26% pour le CAC 40, 7384 points du côté du marché parisien. Alors, assez peu d'activité, même si les volumes d'échanges sont restés globalement standards. À 3,5 milliards d'euros d'actions négociées, on attend la Fed, on ne prend pas trop d'initiatives. Effectivement, ce soir, l'Euronext Tech Leaders, l'indice des valeurs tech, lui a un petit peu mieux réagi, plus 0,7% en clôture. Alors, vous l'avez dit, leader du CAC 40, c'est Renault, plus 5,2% à 46,82€, avec en filigrane l'accélération des pourparlers autour d'une fusion entre Nissan et Honda. On a Vivendi qui gagne 3,5% à 2,60€. Les choses sont un petit peu apaisées après la scission des différentes entités. C'était un peu parti dans tous les sens. Là, les choses se sont stabilisées. Téléperformance, plus 2,5% à 82,10€. On a ST Micro, plus 2,4€ à 25,10€. À la baisse, Pernod Ricard, moins 3%, 108€. Dassault System, moins 17,33,87€. Et Edenred, moins 1% à 30,71€. Le CAC, donc plus 0,26%, 7 324 points. L'euro, 1,0473.
Merci beaucoup Antoine. Un coup d'œil au marché américain. Le Dow Jones gagne 0,30% à 43 585 points. Le Nasdaq, quant à lui, augmente dans les mêmes proportions, plus 0,26%. C'est pas vraiment un bon. 20 161 points. Bientôt 18h10 sur BFM Business. On marque une pause. Dans un instant, la grande interview. Edwige Chevrillon reçoit le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, c'est Jean-François Rial, c'est le patron de Voyageurs du Monde. Vous me direz juste à la veille des vacances de Noël, c'est le moment. Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir.
C'est le moment parce que, bah, évidemment, vous allez nous dire si les Français ont envie de voyager. On voit qu'ils ont cette envie de voyager, qu'ils sont presque devenus des globe-trotteurs, même s'ils voyagent un petit peu moins que les Allemands ou d'autres Européens. Ça y est, l'appétit est vraiment là. Je crois qu'il y a plus de 58% des Français qui disaient qu'ils avaient envie de partir à l'étranger. Voyageurs du Monde, évidemment, c'est des voyages sur mesure, c'est le Voyageur du Monde, c'est des terres d'aventure, c'est quand même un peu le haut du panier du voyage. On va voir ça dans un instant, et surtout, avant tout, vous êtes un entrepreneur, plutôt à gauche, hein, on peut le dire, un entrepreneur, vous avez créé Voyageur du Monde. Est-ce que vous êtes instabilité politique? Est-ce que vous dites pas là, non mais ça suffit, vous avez vu la déclaration du MEDEF, de tous les partenaires sociaux en disant stop, est-ce que vous aussi vous dites stop?
Ah oui, oui, bien sûr, parce que on sait que pour tous les entrepreneurs, quelle que soit leur sensibilité politique, c'est pas le sujet, ils ont besoin de visibilité et de stabilité. Et il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que l'instabilité et l'invisibilité. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quels vont être les impôts nouveaux qui vont toucher votre entreprise et vos salariés, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs dans ce cas-là? Ils font ce que j'appelle la grève des investissements. Alors, c'est un mot un peu provocateur, la grève des investissements. Mais en réalité, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils investissent moins parce que ils ont peur du lendemain.
C'est ce que vous faites?
Bien sûr, on est plus prudent. C'est-à-dire que on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On ne sait, je dirais que on sait bien qu'il y a des réactions en chaîne, en cascade, lorsqu'il y a de l'instabilité politique, parce que les investissements baissent chez les entreprises qui embauchent, qui sont les patrons de nos clients. Parce que tous nos clients, ce sont des salariés, ce sont des gens dans l'activité économique. Et donc, bah, vous avez une tendance à épargner et à moins dépenser, très clairement.
Ouais.
Et je, quand même, c'est un truc incroyable ce qui s'est passé ce matin. Hein. Alors que moi, de mémoire...
Est-ce qu'il s'est passé tellement de choses? J'ai envie de dire, vous pensez
moi, j'ai rarement
à la condamnation de Nicolas Sarkozy, à quoi?
Non, moi j'ai rarement vu le MEDEF, la CFDT et EFO, et toutes les autres, à part la CGT, qui se mettent ensemble pour dire, arrêtez le massacre, parce que l'instabilité politique va freiner les investissements. J'ai rarement vu ça. Hein.
Oui,
je ne sais pas si on a un souvenir il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'un communiqué commun comme ça, mais quand même, quoi. Mmh. Ça fait réfléchir.
Mmh. En même temps, on va le voir là, en même temps, cette instabilité politique, on voit que ça ne... Bah, ça coupe pas l'envie des Français de voyager. C'est ça qui est un peu paradoxal. Parce qu'on pourrait dire la question de pouvoir d'achat, la crise économique qui est, bah, on n'est pas dans une crise économique, ma maman dit une passe difficile, on va dire.
Oui.
Les Français, ils ont envie de voyager, ils ont envie de partir à l'étranger.
Les Français ont envie de voyager, quelle que soit la situation politique, c'est bien normal, puisqu'aujourd'hui, le voyage est devenu un espèce de produit de première nécessité, on va dire, parce qu'il faut aller s'évader, il faut aller se cultiver, il faut aller se détendre, parce qu'on vit dans un monde de stress un peu fort, et donc le voyage est devenu un produit plus important que d'autres produits qui, il y a quelques années, étaient plus importants que le voyage. Bon. Néanmoins, c'est vrai qu'en ce moment, les réservations fonctionnent très bien, mais il faut quand même se souvenir qu'elles ont été très mauvaises cet été, parce que, l'appel d'air des Jeux Olympiques a fait qu'à court terme, les voyages en France, vers la France et au départ de la France, ont baissé.
Donc pour vous, c'était pas une bonne affaire, quoi?
À court terme, non. Ça peut être une très bonne affaire à moyen terme, à long terme, mais à court terme, non. Mais c'est normal, c'est technique. Les gens ont peur dans les aéroports, que ce soit bourré, qu'il n'y ait pas de place, etc., etc. Et donc, vous avez eu un frein de réservation des voyages cet été, donc c'est peut-être compensé en ce moment. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre l'engouement très fort qu'il y a à l'heure actuelle sur les réservations de voyages, qui est réel.
C'est plus combien, juste pour avoir quelques chiffres, on aime bien ça
entre,
ici.
Entre, depuis un mois ou deux, selon les marques et les activités, entre 15 et 20%. Donc c'est quand même assez important. Ça reste des montants petits sur la totalité de l'année, attention, hein, soyons prudents. Mais moi, j'attends de voir, parce que la haute saison des voyages, c'est janvier, février, mars, en réservation. Et moi, je pense que si on continuait dans cette instabilité politique et géopolitique, parce qu'il n'y a pas que la France dans cette
affaire. Ah ben non, mais, oui, mais là aussi, il y a un autre paradoxe, on va y venir.
Eh ben, moi, je dis que je ne suis pas sûr que cette tendance qu'on voit à l'heure actuelle, qui est très bonne, se confirme. Que les gens aient envie de voyager, c'est certain. Qu'ils le fassent, c'est une autre question.
Le taux de réservation là, pour Noël, il est combien pour les vacances?
Il est très élevé à Noël. Jour de l'an, ça a très bien marché. On est 15% au-dessus. Alors, ça dépend, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres selon les marques et les activités. Mais enfin, globalement, que ce soit chez nous ou chez nos confrères, on est plutôt 15% au-dessus de ce qu'on était.
Mais donc, vous avez un taux de réservation de 100%, de 115%, de quoi?
Ah non, les réservations.
Non, mais je sais bien, mais pour vous faire préciser.
Non, 15%. 15%.
D'accord.
15% de plus que l'année dernière. On n'est pas dans des taux à 100%, Edwige.
On a mais justement, on est à taux de combien?
Pardon?
On est à taux de combien?
À peu près 15%.
Pour l'instant, juste 15%.
Plus que l'année dernière.
Ah, de plus? Oui, mais moi, je veux savoir la valeur absolue, si vous voulez.
Sur les départs de Noël, jour de l'an.
D'accord.
Sur l'année prochaine, c'est trop tôt parce que on n'a pas encore assez de visibilité. C'est trop tôt.
C'est un peu étonnant, reconnaissez, vu la conjoncture. Est-ce que le panier moyen, comme on dit dans la grande distribution, on peut peut-être utiliser ça même pour voyageurs du monde, il est combien ça a baissé? C'est combien le voyage moyen chez vous?
Le panier moyen chez nous, il ne veut pas dire grand-chose parce que il y a des variations qui sont dingues selon les destinations, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse inflation en 2023 sur les prix des voyages, 15 à 25% selon les destinations, les axes. En 2024, il n'y a plus eu d'inflation. Les prix qui montent sur les voyages en 2024, ça n'existe pas. C'est stable. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires en 2024, il est monté, il va monter d'environ 5% sur l'année 2024. Et notre nombre de clients va monter également de 5%. Vous voyez, donc les paniers moyens sont très stables.
Oui. Donc ça vous fait un chiffre d'affaires grosso modo. Alors on sait que vous êtes coté,
730
vous
devez... millions d'euros.
730 millions, vous êtes dans, la... dans ce que vous aviez annoncé, quoi. Vous êtes
en 2024. Dans ce qu'on avait annoncé. Ouais. Tout à fait.
Quelles sont les destinations préférées? Faites-nous un peu rêver. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous demande de venir avant les vacances, parce que c'est vrai. Alors, que c'est l'occasion de faire un petit tour du monde tout en restant ici dans le studio de BFM Business.
Il y a deux zones qui marchent très bien en ce moment. L'Asie. Mais c'est un rattrapage un peu post-Covid qui n'était pas bon, en particulier le Japon qui bat tous les records.
Encore, j'ai envie de dire.
Encore, tout
pourtant,
à fait.
C'est très cher comme destination.
C'est très cher, tout à fait. Mais l'exotisme incroyable du Japon, son raffinement, sa cuisine incroyable, ses restaurants dingues. Moi, j'y suis allé au mois d'octobre, j'ai été extraordinairement sidéré de ce qu'on vit dans l'expérience culinaire, par exemple. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, une autre destination, une autre zone géographique qui marche très fort, et ça, c'est le second paradoxe que vous vouliez évoquer, je pense, c'est tout le Proche-Orient. C'est-à-dire Égypte, Jordanie, Oman, Arabie Saoudite,
Vous
Maroc.
Imaginez, là, on est au cœur.
C'est-à-dire que je pense que les gens ont compris, à juste titre, que ces pays étaient complètement sécures, qu'ils ne posaient aucun problème, même s'il y avait une guerre à côté. La guerre entre Israël et...
Jordanie, si vous voulez.
Mais la Jordanie...
C'est collé, je veux dire, à la Syrie, collé à l'Israël.
Il y a zéro problème en Jordanie, Edwige. Moi, j'y vais tous les jours. Et je dirais même, il est urgent d'aller en Jordanie, parce que vous allez enfin pouvoir visiter Petra avec un peu moins de monde, et en évitant le surtourisme. Donc, c'est vraiment le moment d'aller en Jordanie, parce que vous avez zéro problème.
Ils ont pas vous y allez avec... comment? Parce que les vols étaient...
Il y a des vols qui vont vers Amman sans problème, toutes les semaines.
Oui, mais c'est ça, parce que c'est quand même une zone extrêmement, on va dire, où il y a extrêmement dangereuse.
Mais non.
C'est ça qui est étonnant.
Non.
Et l'Égypte,
non.
L'Égypte.
Non, mais attendez, ça c'est très intéressant.
Oui.
Ce n'est pas une zone dangereuse, la Jordanie. Ce qui est problématique, c'est Israël et encore 90% du territoire d'Israël, bon, vous pouvez tomber toujours de vous faire attaquer par une roquette, mais enfin, ils ont fait un cessez-le-feu avec le Hezbollah, donc ça va mieux. Mais Israël est globalement assez sécure, même si nos clients n'y vont pas. Les territoires, évidemment, on peut pas y aller. Gaza, évidemment, on peut pas y aller. La Syrie, évidemment, on n'y va pas. Mais la Jordanie, il n'y a pas de conséquences en Jordanie, vous voyez. C'est comme si on vous disait.
C'est étrange,
non, mais
quand même.
Non, mais
c'est comme. Oui, enfin, vous voyez,
c'est ça.
Un peu quand même paradoxal.
C'est comme quand les gens me disent est-ce que je peux aller en Égypte? Parce que l'Égypte, le Sinaï, c'est à côté de Gaza. Mais je leur dis mais vous allez dans la vallée du Nil, sur notre steamship Soudan, là, notre vieux bateau steamer.
Oui, mais il y a des attentats, il y a des.
Mais il n'y a pas d'attentats, il n'y a pas d'attentats, il n'y a pas d'attentats, il n'y a rien. Ça, c'est des fantasmes.
Alors, oui, d'accord, mais le fantasme d'aller en Égypte.
Et d'ailleurs, la preuve, les gens ont compris.
Ouais.
L'année dernière, ils n'y allaient pas, alors qu'il n'y avait pas plus de problèmes. Hein.
Ouais.
Il n'y avait aucun problème dans ces zones.
Non, mais il y en a même plus aujourd'hui, et puis là, quand même.
Voilà, ouais. Donc on voit bien que la réalité, c'est la dimension psychologique et non pas la vérité. C'est pour ça qu'il faut en profiter.
Il y a une autre caractéristique, c'est qu'avant, peut-être la conséquence de la Covid, avant, c'était plutôt des voyages en groupe ou en petit groupe.
Oui.
Maintenant, c'est les gens, ils veulent être seuls, enfin, des voyages individuels ou en famille.
Le voyage en individuel explose au détriment des voyages en groupe, très clairement.
Ouais.
Très clairement. Et c'est une tendance mondiale, lourde, et qui ne va pas s'arrêter.
Mais donc, pour vous, c'est plus compliqué ?
Ben non, pour nous, c'est parfait, parce que notre grande spécialité, c'est le voyage en individuel sans mesure. Donc, c'est parfait. On donne beaucoup de services, on donne beaucoup de contenus qui ne soient pas uniquement touristiques, en vous donnant des éléments clés pour comprendre le pays dans lequel vous allez. Vous construisez sur un même itinéraire que vos amis qui ont fait le même, des voyages qui sont complètement différents. Donc non, pour nous c'est parfait.
Est-ce qu'il y a d'autres rapidement, il y a d'autres destinations, c'est vraiment là le plébiscite.
Après le reste,
quid de la Tunisie, le Maghreb, tout ça, le Maroc.
Le Maroc reprend bien.
Oui.
Le Maroc reprend. La Tunisie c'est plus compliqué. Mmh. C'est plus compliqué.
Oui,
mais surtout pour nous.
C'est dommage.
Chez nos confrères.
C'est dommage pour eux. Alors, ce qui est paradoxal, on a vu en plus là, les chiffres d'ADP sont tombés hier. Je sais pas si vous avez vu, c'est le trafic, c'est plus 10% de mémoire, 10,8% sur le mois de novembre.
5 milliards de passagers dans le monde.
C'est dingue. Et en même temps, il y a une transition écologique. Alors vous allez écrire un livre qui s'appelle Apocalypse climatique. Est-ce que c'est une fatalité? Vous dites non, c'est pas une fatalité. Vous écrivez ça avec Mathieu Belloir. Je crois que ça va. Cela dit, on est en avance. Hein, ça paraît. Début février.
13 février.
Mais vous voyez bien, alors si vous défendez votre paroisse, en même temps, nous avait expliqué que voyager, c'était quand même très très mauvais pour la transition écologique et le climat et tout. C'est quoi Pourquoi vous dites que ce n'est pas une fatalité?
Ce n'est pas voyager qui est mauvais, c'est d'émettre du CO2. Mais il n'y a pas que l'avion qui met du CO2. Il y a toutes les activités économiques humaines.
Ouais.
Et ce qu'on a essayé de démontrer avec Mathieu Belloir, dans ce titre un peu provocateur qui est l'apocalypse climatique n'est pas une fatalité, c'est de dire en deux mots, en 1995 on a fait la première COP pour dire il faut pas qu'on dépasse 1,5 degré de réchauffement climatique. Or aujourd'hui on n'a toujours pas atteint le pic des émissions de CO2 mondiales et on a déjà atteint le 1,5 degré. Donc le système des COP avec des objectifs de diminution par pays, par activité, etc., bah, il fonctionne pas. Et donc, ce que nous, on propose, c'est nous, ce qu'on dit, c'est que, en même temps, on n'a pas le choix parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse 2 degrés parce que sinon la survie de l'espèce humaine est en danger. Très clairement, ce n'est pas la Terre qui est en danger, c'est nous. Et donc, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut acheter du temps, il faut acheter une génération, il faut acheter 30 ans. Et pour pouvoir acheter du temps, il n'y a qu'une seule solution pour pouvoir diminuer tel que le propose le GIEC, mais moins vite que ce que propose le GIEC. Parce que si on veut faire comme le GIEC le propose, ça ne marchera pas. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Ben nous, ce qu'on propose, c'est d'absorber massivement du carbone. Massivement. Et pour ça, il y a plein de solutions.
Vous plantez des forêts, vous faites quoi?
Voilà, on plante des forêts, mais on les plante de façon massive. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 3 000 milliards d'arbres sur Terre. On propose d'en planter 250 milliards de
et
plus.
Et où dans le Sahara?
Eh bien, vous allez le lire. Le livre, parce qu'il y a un grand scientifique britannique qui s'appelle Thomas Crotter, qui a photographié le monde entier où étaient plantés les arbres et où on pouvait en planter de façon supplémentaire sans toucher aux activités agricoles et humaines. Et il a trouvé qu'on pouvait en planter 1000 milliards de plus. Ben nous, on propose juste d'en planter 25% de plus que ça. Et avec ça, vous allez gagner 30 ans de division par deux des efforts nécessaires de baisse des émissions de CO2. Si vous faites pas ça, on fera 2,5 degrés ou 3 degrés. Ouais. C'est
et qui finance
ça? Puis il y a une dernière chose aussi. Ouais.
Non, mais cela dit, vous-même, vous dites, j'ai pas vérifié, je vous crois sur parole, Jean-François Rial, que vous avez diminué vos émissions de CO2 entre 1999 et 2023 de 30%.
Exact.
Mais vous voulez dire faire quoi? Vous avez supprimé l'effet de papier? Comment vous avez fait?
Alors, comment on a fait? Alors, d'abord, on a eu un peu moins de clients dans cette période. Donc déjà, on a eu plus de chiffre d'affaires, mais moins de clients. Donc déjà, il y a un effet client. Bon. Mais il y a quand même 15% de diminution par passager. Comment on a fait? En réalité, nous, on a fait des choses, mais les compagnies aériennes aussi ont fait plein de choses. Les moteurs aériens sont beaucoup, beaucoup moins émetteurs. Ils ont changé de machine, etc. On prend plus le train, on prend plus de vols directs, on prend plus de machines qui vont vers New Delhi, qui ont un moteur neuf plutôt qu'un moteur qui a 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, on est à 2 litres au 100, 2 litres 5 au 100 maximum sur les avions. Donc, en réalité, quand vous allez, par exemple, ça surprend énormément les gens, quand vous allez à Nice en voiture, à deux, vous émettez plus de CO2 que quand vous prenez l'avion. Il faut que vous soyez au moins 3 pour égaliser l'avion. Alors, le train est beaucoup plus compétitif en CO2, mais l'avion devient très compétitif. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on a baissé de 30% de nos émissions entre 99 et 2023. Et ça, sans planter des arbres. On plante en plus des arbres nous-mêmes, mais c'est en plus des 30% des émissions.
Alors, juste, je vous ai interrompu, pardon. Qui finance? Qui plante les arbres?
C'est très simple. Il faut 500 milliards de dollars pour faire le plan qu'on propose. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Le PIB mondial, c'est 10 000 milliards de dollars. Donc, on est à 0,5% du PIB. Donc, c'est ridicule. Et en plus, c'est one shot. Donc, on le finance par ceux qui ont besoin de crédit carbone et qui peuvent le faire. Et puis, par les États, par les fondations, par les entreprises. Nous, par exemple, Voyageurs du Monde, on est une petite entreprise. On fait 730 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, on dépense 1,5 million d'euros par an pour planter des arbres. Si tout le monde fait ça à hauteur de notre chiffre d'affaires, je vous garantis que les 500 milliards, on va les trouver. Et puis, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on propose d'autre? Parce que c'est ça aussi qu'on propose dans notre bouquin. Si vous avez une meilleure idée, on a créé un site web dans lequel on dit aux gens, écoutez, si vous avez une meilleure idée, proposez. Parce que moi, je veux bien qu'on nous critique sur ce qu'on propose. D'abord, on a répondu à toutes les questions dans le bouquin pour lesquelles ça m'a... sur les oppositions sur lesquelles on nous oppose. Mais surtout, qu'est-ce que vous proposez? Les COP? On a vu le résultat.
Oui, ça c'est sûr, surtout la dernière. La prochaine sera guère mieux. Merci,
merci
Jean-François Rial. Vous partez où, vous?
Écoutez, je m'en vais dans le Cantal.
Ah, mais comme toujours, chaque fois que je vous pose la question, j'ai droit à la réponse du Cantal.
Mais c'est Noël. Je vais chez moi, en dehors du surtourisme.
Merci beaucoup, Jean-François Rial.
La carbone, ouais.
Président Voyageurs du Monde. Limite, il ne voyage pas, lui, il va dans le Cantal. Merci.
Merci à vous. Joyeuses fêtes.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas. Good evening business. Les experts BFM.
Bientôt 18h35 sur BFM Business, la suite de l'émission. On est en direct jusqu'à 20h. Emmanuel Lechypre nous a rejoint en plateau. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à tous.
Et Alexandre Malafaille, président de Sinopia également. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas.
On commence avec ce nouveau gouvernement de François Bayrou qui se fait toujours attendre. Le Premier ministre s'est entretenu à nouveau cet après-midi pour avancer sur la composition de son gouvernement. En attendant, sa incertitude politique visiblement commence à peser de plus en plus sur l'économie française. Ça commence à se voir dans les chiffres, ça commence à faire mal si on en croit les toutes dernières notes de conjoncture de la Banque de France et de l'INSEE. Écoutez ce qu'on disait ce matin sur notre antenne le chef du département conjoncture de l'INSEE, Dorian Rocher, notamment sur l'investissement des entreprises.
Nous, dans les enquêtes qu'on pose aux entreprises, on ne voit pas de très forte hausse. On a une petite hausse de la part des entreprises qui nous disent « j'ai du mal à prévoir ce qui se passe dans les 3 prochains mois ». Mais ce n'est pas massif à ce stade. Et c'est vrai que l'incertitude actuelle, elle reste moins forte qu'au moment de la crise sanitaire, où là, vraiment, vous ne saviez pas ce que vous allez pouvoir faire demain. Mais par contre, ce qu'on voit, notamment sur l'investissement, c'est que aujourd'hui, on devrait, en début 2025, dans toute logique, on devrait avoir une accélération, en tout cas une baisse moins forte, puisque la baisse des taux commencerait à se diffuser à l'investissement des entreprises. Quand on regarde les réponses des entreprises, elles restent encore très plus bien plus que ne suggéreraient les déterminants macro, notamment l'amélioration attendue des conditions de financement. Donc dans ce supplément de pessimisme des entreprises sur l'investissement, on peut y voir l'effet de l'incertitude. Elles sont prudentes sur l'investissement dans les usines, les entreprises en France, parce qu'elles ne savent pas trop quel va être l'environnement fiscal, l'environnement social auquel elles seront confrontées dans quelques mois.
Bon ben voilà, maintenant c'est clair, c'est l'INSEE qui le dit, l'incertitude politique pèse sur l'activité économique. C'est officiel, c'est démontré par A plus B.
Oui, on le voyait déjà. Hein, il y avait eu, vous savez, toutes les enquêtes qui sont faites auprès de toutes les typologies d'entreprises. Alors, on a la Banque Palatine qui fait des enquêtes auprès des aussi, ETI. Ouais. On a Rexecode et BPI qui font les études auprès des très petites entreprises. Et on arrivait quand même à des résultats assez forts qui étaient qu'il y avait presque la moitié des entreprises pour qui l'incertitude politique était un frein majeur. Principal au développement de leur projet. Et là, ce qu'on voit d'inquiétant finalement dans la note qu'a publiée l'INSEE, c'est qu'on a deux
les moteurs. Deux hein, la Banque de France lundi, l'INSEE hier.
Exactement, on a
qui disent la même chose.
On a deux moteurs de la croissance, nous dit l'INSEE, qui étaient cette année les exportations, le commerce extérieur et finalement la dépense publique. Et que ces deux moteurs de croissance, paradoxalement, ne tourneront pas en 2025.
Ou moins fort, en tout cas.
Ou moins fort, en tout cas, notamment la dépense publique. Et puis que les autres moteurs ont du mal à prendre le relais. Et on a là, effectivement, finalement, des chefs d'entreprise qui résistent. Et on sent bien que, finalement, ils font le minimum, c'est-à-dire qu'en gros ils renouvellent les investissements qu'ils sont obligés de renouveler.
Mais eux aussi ils sont en mode loi spéciale, quoi.
Voilà, ils sont en mode loi spéciale, c'est-à-dire qu'on refait les projets, mais par contre on ne va pas dans des projets très audacieux. Et puis c'est surtout l'attentisme des ménages, c'est-à-dire combien de temps les Français vont rester assis sur ce matelas d'épargne absolument colossal en attendant ce qui va leur tomber dessus sur le plan fiscal. Et ça c'est quand même un frein à la croissance. Et je m'arrêterai là. On a quand même aussi, c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est que cette inquiétude, cette fragilité conjoncturelle, elle est quand même aussi le symptôme d'un affaiblissement plus structurel. Et c'est ça qui est inquiétant.
Ouais, Alexandre Malafaye.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est de constater qu'en France, je dirais même comme en Europe, on pilote l'économie en méconnaissant ce que c'est que l'économie. C'est-à-dire, quand on se compare par rapport aux Américains, il y a quand même des phénomènes de constance sur la ligne de conduite américaine politique, que ce soit démocrate ou républicain. Voilà, globalement, quand même, ils ont à cœur de faire en sorte que le cœur de la machine qui fait tourner quand même tout le système et qui quand même fonde une bonne partie de la puissance et du rayonnement américain, c'est par de conquêtes, dans tous les domaines, sa fabrication des champions. Enfin, ils ont fait 30 champions de classe mondiale en 30 ans. Nous, on en a fait peut-être 3 modestement. Voilà, ils ont ça en permanence comme élément de constance. Ils font pas trop de volte face. En Europe, on pilote depuis Bruxelles, on pilote l'économie de manière très administrative, on pond la CSRD, la CS3D, on se préoccupe pas de savoir si on la descend le plus bas possible, si bien sûr, tant qu'à faire, les études d'impact sont pas faites. Et en France, on a effectivement cette espèce de rapport idéologique à l'économie, et le seul qui avait à peu près réussi, il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là, depuis 7 ans, jusqu'à la dissolution, c'était de garder une espèce de ligne de cap, de dire, le reste est compliqué, semble-t-il, pour lui, mais l'économie, c'était d'essayer de garantir un peu de stabilité. Et là, depuis la dissolution, en fait, on a enlevé tous les pilotes du cockpit de la Formule 1. Il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Et c'est vrai que c'est effrayant. Enfin, pour le monde économique, pour les investisseurs, vous sortez comme moi, on rencontre des chefs d'entreprise, on voit des
gens. Ah oui, non, puis on les entend sur ce plateau, toute la journée.
Et moi, je les vois en vrai, aussi, que ce soit petite, moyenne ou grande entreprise, quand je les croise. J'étais à Lille, j'en ai réuni quelques-uns avec moi, dans un événement qu'on a monté avec Sinopia. Objectivement, c'est impressionnant. Les gens sont très, très, très stérilisés. Ouais. Et l'inquiétude de l'avenir, elle ne peut être que caractérisée par ce qu'on voit et dont on ne voit pas ce qu'on peut voir autrement que de l'inquiétude.
Et alors, je rebondis sur ce mot de stériliser, parce que c'est un peu la conclusion de ces deux études. Elles nous disent en gros qu'on va perdre un an. La reprise, ça devait être l'an prochain, finalement, ce ne sera pas avant 2026. On en est là. La crise politique va faire perdre un an à l'économie.
Rappelez-vous.
C'est quand même, le coût est monstrueux.
Oui, mais rappelez-vous.
Un an perdu.
Rappelez-vous, dès le lendemain de la dissolution, on avait dit on rentre dans une période d'attentisme qui va coûter un trimestre de croissance. Là, on est le 10 juin. Mais on pensait pas que finalement sortirait de l'Assemblée une non majorité et donc du coup on peut effectivement répéter ça. Mais ce qui est inquiétant et ce qui rajoute quand même à l'inquiétude des chefs d'entreprise, il faut pas se voiler la face. C'est exactement ce que vous disiez, c'est que sur fond d'incertitude qu'on peut espérer conjoncturel et temporel, vous avez des inquiétudes beaucoup plus structurelles sur la compétitivité de la France et de l'Europe en général.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que la situation de l'Europe n'a jamais été aussi compliquée et difficile et inconfortable maintenant que, à coup sûr depuis la fin des années 50 et sans doute depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire cet état de fragilité. Quand a-t-on vu les deux grands pays européens aussi faibles
aussi mal en point,
et aussi fragiles en même temps? C'est-à-dire que l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même souvent deux pays qui, par une sorte finalement de concomitance, l'un va bien, l'autre va mal. Quand vous regardez finalement les années 90, c'est les années compliquées de l'Allemagne, les années où il faut digérer la réunification. Mmh. C'est l'année où la France a des excédents commerciaux, fait mieux que l'Allemagne. Après, la France s'effondre, commence à s'effondrer à partir de la fin des années 90 avec cet infernal tandem Jospin-Chirac qui fait les 35 heures, qui etc., etc. Et vous voyez quoi? Que c'est le moment où l'Allemagne redémarre, elle, finalement. Et là, vous vous retrouvez avec ces deux grands pays enlisés. Et quand vous faites la liste aujourd'hui des points forts finalement de l'Europe par rapport aux États-Unis, bah, vous n'avez plus grand chose sur la liste. Rajoutez maintenant le dernier grand différentiel, ça a été l'énergie en faveur des États-Unis. Et donc on se dit, mais finalement les inquiétudes, elles sont aussi beaucoup plus profondes que
les simples
aléas conjoncturels.
Évidemment, ça se résume pas à la politique, Alexandre.
Et la symétrie est patente parce qu'en effet, à partir du 20 janvier 2025, vous aurez un président américain qui lui va
Donald Trump
prendre
ses fonctions à la Maison
aligner toutes les planètes avec lui. Et à part les petits soucis judiciaires qui va traîner, le reste est totalement aligné. Il a le Congrès, il a les représentants.
La tech qui fait l'agence.
Ouais. Tout le monde suit derrière, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a un programme extrêmement punchy et la volonté en plus de donner encore plus la part belle au monde économique. Et nous, effectivement, les trois pays qui tirent un peu l'Europe en termes de taille, la Pologne, l'Allemagne et la France, les deux d'entre eux principaux, et l'Italie qui ne va pas très très bien quand même, la France et l'Allemagne en tout cas, sont en panne. Et vous parliez de quelques mois, on perd un an, mais on risque nous de perdre davantage. Parce que globalement, à supposer qu'on dissolve l'Assemblée en juin, on n'aura pas de gouvernement avant septembre. Et à supposer qu'on ait une Assemblée aussi baroque que celle-là, dire on est en train de perdre 2 ans et demi dans le contexte. Et les Allemands, eux, ils seront de façon pas en place avec des élections en février. Dans le meilleur des cas, une fois qu'ils auront voté, qu'ils auront fait une GroKo, c'est juin. Dans le meilleur des cas, juillet. Donc en fait, on est tous en train de perdre quasiment un cycle d'une année, voire plus. C'est redoutable. Donc c'est vrai que quand vous êtes économiste dans les entreprises, quand vous achetez d'entreprises, quand il faut investir, quand vous êtes à l'étranger, vous regardez l'Europe, la France, en ce moment c'est compliqué. Et c'est dommage parce qu'en plus on s'est réfugié pendant très longtemps. Je voudrais juste rajouter ce point pour dire que très longtemps on a quand même, ça c'est un peu un défaut de la façon dont on fait aussi de la politique, on se réfugie derrière les arbres qui cachent la forêt. On vous dit on a tel taux d'investissement, tel taux de croissance et tel taux de chômage. Mais derrière un 7% de taux de chômage, il y a une réalité qui est d'une disparité incroyable. Et donc en fait, ça, on ne regarde pas les réalités en face correctement parce que derrière vous avez l'arbre des réussites mais aussi des misères, des difficultés, mais en même temps on se rassure parce qu'on a un bel arbre devant. Et ça, c'est aussi un gros défaut de faire le politique parce qu'on fait de la politique en dehors des réalités.
Il y a une question, moi, qui me semble fondamentale pour les deux années qui viennent, c'est que on voit bien que l'Amérique redevient extrêmement attractive, que si Trump baisse l'impôt sur les entreprises, que les marchés financiers américains vont redevenir extrêmement attractifs, et donc que l'Amérique va être une pompe à aspirer les capitaux du monde entier. Ça veut dire qu'on va plutôt aller vers un dollar fort et un euro faible. La question, c'est est-ce que...
Ah bah déjà, là, on voit en ce moment que l'euro est sous tension.
Et voilà, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient,
ah bah ça, c'est l'éternelle
dans
question.
Le monde des deux années qui viennent, d'avoir une monnaie faible ou pas? Moi, j'ai tendance à penser qu'avec le contre-choc énergétique auquel on est en train d'assister, c'est peut-être pas un désavantage d'avoir un euro plus faible, puisqu'on n'a pas le contre-choc.
C'est toujours pareil, ça dépend des secteurs. Voilà. Ça dépend des secteurs.
Ça dépend des secteurs.
Mais, et des tensions commerciales qui se profilent.
Mais c'est quand même une vraie question qu'il va falloir se poser.
Bien sûr. Merci à tous les deux. On reparlera tout à l'heure, Alexandre, d'une étude que vous avez faite, justement avec Odoxa. Dans ce climat-là, vraiment compliqué d'incertitude, vous êtes allé poser la question des Français face au changement. Et on verra que les résultats sont quand même assez édifiants. Les Français, plus que jamais, sont rétifs au changement et vous nous direz pourquoi. Mathieu Pechbertine, Argent Plateau. Bonjour Mathieu.
Bonsoir.
Pour parler de la grosse actu business entreprise du jour, ça se passe dans l'automobile. Ça fait des mois que Nissan et Honda réfléchissent à se marier, à fusionner. Là, visiblement, on avance vers les fiançailles.
Oui, en fait, ils réfléchissaient à quel partenariat ils pouvaient faire. Ça commence toujours un peu comme ça dans l'automobile. On se tourne autour, on se renifle et puis à un moment donné, on décide ou pas d'aller plus loin que des partenariats industriels. Et donc, effectivement, ils réfléchissent à un rapprochement, un mariage, une fusion. Alors, c'est un cas un peu particulier parce qu'on parle beaucoup de difficultés du marché automobile au niveau global, enfin dans le monde, notamment par rapport à la transition vers l'électrique. Mais là, c'est un cas vraiment très circonscrit au Japon, avec deux constructeurs qui sont évidemment très forts là-bas, avec Toyota, mais qui n'a pas de difficultés, qui ont tous les deux des histoires un peu différentes, mais qui souffrent aussi du marché chinois. Évidemment, le ralentissement de la croissance chinoise touche énormément l'automobile, et particulièrement Nissan. Et donc, vous savez, au Japon, quand il y a des difficultés dans un secteur, on regarde d'abord à se consolider entre soi. Ça a d'abord été, j'ai souvenir de crises bancaires, notamment où il y avait eu des consolidations de banques japonaises entre elles, et donc là c'est ce que font Nissan et Honda, alors qu'on se souvient évidemment de l'alliance que Nissan avait faite avec Renault qui s'est terminée, mais il y avait aussi d'autres constructeurs.
Officiellement elle n'est pas terminée, mais dans les faits elle se détricote encore plus au vu de ce type de projet.
Dans les faits elle est terminée, et il y avait effectivement encore des liens capitalistiques, et donc ces deux groupes japonais envisagent de fusionner. Je ne sais pas, on ne sait pas encore, personne ne sait encore jusqu'où ça ira, mais en tout cas il y a une nécessité de créer un deuxième grand groupe japonais à côté de Toyota. Et je signale pour terminer que c'est Nissan Honda, mais en fait c'est Nissan Mitsubishi.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Mitsubishi.
Et c'est important parce que vous savez,
c'est un peu l'union sacrée des trois japonais un peu en difficulté.
Oui, et puis avant que l'alliance entre Renault et Nissan ne casse, alors que les deux groupes étaient en difficulté, Mitsubishi, c'est pour le coup, c'est vraiment un constructeur qui marche, qui fonctionne sur un marché très particulier, notamment sur l'Asie du Sud-Est. Hein, donc c'est hors Chine. Au Japon évidemment, mais quand même plutôt en Asie du Sud-Est, où avec des véhicules des prix abordables et bien calibrés, sur les gammes bien calibrées, ils sont très forts.
Ouais, ça c'était la dernière pièce du puzzle de l'alliance de Carlos Ghosn, pour le coup il avait rajouté Mitsubishi à la fin. Alors tout ça nous ferait quand même le numéro 3 mondial de l'automobile en volume de vente, en tout cas, hein.
Oui,
derrière Toyota et Volkswagen.
Oui, en volume de vente. Ce qu'il faut voir, c'est que comment ils vont. Bon, de toute façon, ils sont très
mondial, numéro 3 mondial des ventes dans le monde.
Mais globalement, ils sont présents sur quel marché?
Non, mais ils sont évidemment très forts sur l'Asie. Nissan a des parts de marché aux États-Unis qui sont intéressantes et qui d'ailleurs intéressaient beaucoup à l'époque le groupe Fiat, qui avait envisagé de se marier avec Renault.
Avant Stellantis.
Pour les parts dans Nissan et mettre la main sur Nissan. Ils sont beaucoup moins forts en Europe. D'ailleurs, Nissan a beaucoup reculé en Europe ces dernières années, a fermé une usine en Espagne, si je ne me trompe pas, en maintenant celle en Grande-Bretagne. Et donc, ça restera en tout cas des groupes qui se concentrent sur l'Asie, là où effectivement, de toute façon, les deux grands marchés mondiaux de l'automobile sont les États-Unis et l'Asie, évidemment, puisque l'Europe souffre quand même pas mal. Hein.
Particulièrement, oui. Ouais. Et Renault dans tout ça? Renault qui reste le premier actionnaire de Nissan. Oui, est-ce que ce serait une bonne opération pour Renault ou pas?
Alors, on se souvient que Renault est en train de détricoter l'alliance avec Nissan. Hein. Ils ont encore, en fait, 15% du capital de Nissan, puis une autre partie qui est un peu plus qui est d'environ 20%, mais qui est logée dans un fonds qui a vocation à être vendu à Nissan au fur et à mesure. Donc Renault a clairement perdu de l'influence chez Nissan. C'était l'objectif du détricotage de l'alliance. Alors je regardais tout à l'heure en fait ça serait pas une fusion entre Nissan et Honda, ça serait vraiment un rachat de Nissan par Honda. En termes de poids, en termes de valorisation boursière, les analystes qui ont été cités par Bloomberg, ou les calculs de Bloomberg, disent en tout cas que Renault aurait en gros 5% du nouvel ensemble si jamais il parvenait au bout de cette fusion. Donc, là on est quand même dans une situation où, moi je ne me vois absolument pas Renault s'opposer à ce rapprochement. Si tant est qu'il en ait les moyens.
Oui, c'est ça.
Il a encore des pouvoirs.
Il a un mot à dire quand même.
Oui, il a encore des pouvoirs.
Il ne peut pas bloquer l'opération.
Sur les décisions stratégiques, je n'ai pas les détails, mais sur les décisions stratégiques, il a son mot à dire. Mais de toute façon, Renault est dans une logique. Il a déjà ses sujets à lui à gérer en Europe, notamment sur l'électrique. Est-ce qu'il tirera profit financièrement peut-être de cette fusion, mais au-delà?
En tout cas, ça a plu au marché. Hein. Ce matin, le titre a bondi, a pris 6%, c'était accueilli favorablement.
Le cours de bourse de Nissan remonte, donc mécaniquement, celui de Renault qui prend une partie des résultats de Nissan dans ses comptes remonte. Hein.
Emmanuel, c'est une preuve, une fois de plus, des grandes manœuvres dans le secteur. Ça bouge tout le temps, en permanence, avec des opérations d'envergure.
Alors, c'est sûr que effectivement, on voit bien qu'il y a trop de constructeurs aujourd'hui. Il y a ceux qui seront capables. C'était la thèse de Carlos Tavares, c'est-à-dire que c'est un système, c'est un monde darwinien exactement, où seuls survivront les 4 ou 5 constructeurs qui, à l'échelle mondiale, seront capables de résister à la déferlante.
Ce que disait Carlos Ghosn en son temps.
Des concurrents chinois. Et ça, effectivement, c'est important. Après, du coup, on a quand même Renault qui reste un peu tout seul dans son coin.
un sujet.
Et là, c'est quand même un sujet, parce qu'il y a bien un moment où la politique...
Ça n'empêche pas d'avoir redressé ses marges, d'avancer. Ça suffit peut-être pas, hein, mais...
Voilà, c'est-à-dire qu'après, ça, c'est une première étape, ça ne garantit pas la survie de Renault. Donc oui, c'est des tas de grandes manœuvres, et c'est sans doute pas les dernières.
Ouais. Mathieu ?
Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, comme je disais, comme c'est un rapprochement entre constructeurs japonais, il y a 4-5 ans, quand on était dans un autre monde, je répète, vous savez, Fiat avait racheté Chrysler, Fiat voulait mettre la main, avant de mettre la main sur Peugeot, voulait mettre la main sur Renault, justement pour Nissan, l'intérêt aux États-Unis. Enfin, il y avait une vraie...
Bruno Le Maire s'était opposé.
Il y avait une vraie globalisation, je veux dire, de la consolidation des constructeurs.
Et Mathieu, c'est cohérent avec la re-régionalisation.
Voilà, exactement.
Non, mais de la mondialisation.
Non, mais voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il va y avoir une consolidation. Et d'ailleurs, c'est pas que dans l'automobile, hein, mais que ça va être exactement comme le dit Emmanuel. Ouais. Une régionalisation, ça va se faire entre Américains. Tavares rêvait de mettre la main sur Ford ou GM. Ouais, il y a encore 2 ans, quand ils faisaient 20 milliards de résultats, bon, vous rentrerez pas sur le marché automobile américain en achetant Ford ou GM, vous voyez. Donc ça va se faire entre Américains. Donc ça se fait entre Japonais. Parce que les Chinois, de toute façon, c'est très protectionniste. Et donc, ça pose la question que pose aussi Emmanuel à l'instant. Ça va se faire entre Européens. Et alors là, question mark. Parce que quid de Stellantis, quid de Renault, Daimler et autres. C'est quand même consolidé sur un marché qui est flat, ou qui décline un peu.
Plus compliqué en Europe. Ça consolide régionalement dans les banques aussi ? Parce que alors ça aussi, ça fait partie des actus du jour. On a UniCredit qui continue à monter au capital de Commerzbank. On est à 28%, on est à 2% du seuil où vous devez déclencher une OPA. Là aussi, est-ce que la consolidation bancaire dont tout le monde parle et fantasme depuis X années, elle va peut-être arriver enfin l'année prochaine ?
Ça n'a jamais marché en Europe, la consolidation bancaire.
Enfin, là, visiblement, le patron d'UniCredit, il y croit.
Ça n'a marché qu'à la marge. Il n'y a que jamais une grande enseigne bancaire d'un grand pays de l'Union européenne n'a réussi à devenir une grande enseigne bancaire dans un autre pays de l'Union européenne. Alors il y a bien eu des rachats de banques, on l'a vu avec la Société Générale, Fortis, la BNP, Fortis, etc.
Et ça a marché.
Mais c'est quand même l'exception.
Il faut des grosses crises financières. Je souscris encore à ce que dit Emmanuel. UniCredit, c'est un cas particulier. Vous avez quand même un cow-boy à la tête de la banque. Qui s'appelle je pense qu'il ne le démentirait pas. Enfin, qui s'appelle André Orcel, qui est un banquier d'affaires et qui effectivement est sur tous les fronts. Fait un raid sur Commerzbank parce que ça s'appelle un raid. Qui fait un raid aussi sur une banque en Italie,
Banco BPM, la troisième banque du pays.
De Milano, voilà exactement.
Et les deux en parallèle.
Et c'est un banquier d'affaires qui est offensif. C'était lui qui pendant la crise financière, comme ça tout le monde va comprendre qui est ce bonhomme. Ouais. André Orcel, il était patron de toute la banque d'investissement de Merrill Lynch en 2008 et c'est lui qui a mené l'offensive pour découper la banque ABN AMRO avec Fortis, Royal Bank of Scotland et Santander. Ils s'y sont mis à trois pour découper une banque et tout le monde disait à l'époque c'est formidable, mais on est au summum de la haute finance et ça a donné la crise financière et toutes ces banques ont explosé en vol. Fortis a été racheté par BNP, Royal Bank of Scotland a été nationalisé et donc voilà, c'est quand même un petit peu un fou furieux de la finance, donc c'est un cas à part et donc la consolidation bancaire en Europe, par métier un peu, mais au global, on va rester dans des consolidations à l'intérieur des pays, comme on l'a fait, comme on en parlait dans l'automobile au Japon.
Bon, c'est un peu plus clair. Merci à tous. Marine Cardot nous a rejoint en plateau pour Vue sur le web, le best-of, les articles les plus vus, lus, consultés sur notre site. Bonsoir Marine. On parle immobilier évidemment avec vous, Marine, et vous nous expliquez aujourd'hui qu'une très mauvaise performance énergétique du logement peut lui faire perdre beaucoup, beaucoup de valeur.
Oui, exactement. En fait, la différence entre les bons et les mauvais logements du point de vue de la performance énergétique se creuse même d'année en année. On s'en doutait, mais on a eu les chiffres des notaires sur les prix de 2023 qui le prouvent. Les passoires énergétiques, elles valent de moins en moins cher en comparaison avec ces logements qui sont plus performants. Si vous êtes par exemple propriétaire d'une maison en Nouvelle-Aquitaine, qu'elle est classée F ou G, donc une mauvaise note, elle vaut en moyenne 25% de moins qu'une maison classée D.
C'est énorme, c'est la moyenne.
Voilà,
25%, c'est énorme.
25% en 2023, en 2022 c'était 22%. Donc voilà, on a l'écart qui se creuse. ça s'aggrave. Et si on regarde un peu la carte, on voit que c'est différent selon les régions. On a 23% de décote dans les Hauts-de-France, par exemple, ou dans le Grand Est. Normandie ou Occitanie, on est autour de 18%. Et par contre, l'Île-de-France, elle est un peu moins touchée. On a 10% de décote en Grande Couronne, 7% en Petite Couronne.
Bon, donc effectivement, très mauvais plan. La valeur verte diminue grandement quand on descend dans le DPE. Mais est-ce qu'à l'inverse, quand on monte, on gagne de la valeur?
Ouais, et ben, ça marche dans les deux sens. C'est logique. On a des bonus de 5, 10, 20% pour des biens classés A ou B, toujours des écarts différents selon les régions, et qui se creusent par rapport à 2022. En fait, on assiste là à vraiment l'émergence, vous l'avez dit, d'une valeur verte, donc c'est les notaires qui l'appellent comme ça. Avant, l'efficacité énergétique, elle impactait plutôt le confort des occupants, ou alors vos factures d'électricité, d'énergie. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment devenu un élément clé de la valeur patrimoniale de votre logement, et puis on peut considérer que c'est une bonne nouvelle quand on voit les objectifs climatiques que se fixe la France. Et puis, ça incite aussi les propriétaires à faire des travaux de rénovation énergétique, non seulement parce que ça fait baisser les factures, mais aussi parce qu'ils savent qu'après, à la revente, ils vont faire une plus-value. Le seul problème, c'est qu'en fait, cette valeur verte, elle s'applique en fonction du DPE, donc le fameux diagnostic de performance énergétique. Sauf qu'il y a plusieurs études qui ont remis un peu en cause la fiabilité.
Bien sûr, on en a parlé, oui.
De ce DPE, on en a parlé ici même.
Ouais.
Et donc, le risque, c'est qu'en fait, on ait des vendeurs ou des acheteurs qui soient pénalisés sur la base d'un DPE qui est erroné ou pas vraiment fiable, imprécis en tout cas. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner si vous achetez un bien, c'est de faire un contre-DPE, de le demander même à vos frais pour éviter de vous faire avoir.
Un deuxième avis. Bon, merci. Merci beaucoup, Marine Cardo. Merci à vous tous, Mathieu Pechberthier, Emmanuel Le Chypre.
Ouais, Emmanuel. Je regrette pas de m'être ruiné en nouvelle baie vitrée chez moi cette année.
Voyez. La sagesse incarnée, Emmanuel.
Je vois la valeur de moi.
Évidemment.
C'est le moral, ce sujet.
Bon, et merci à vous, Alexandre Malafaye. On vous retrouve dans un instant. Vous restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième heure de Good Evening tout de suite après la pub.
Good Evening Business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, 19h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening. Dans l'actualité ce soir, eh bien on attend toujours la composition du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre recevra demain à 14h à Matignon l'ensemble des partis, à l'exception du Rassemblement National et de la France Insoumise. En attendant la fumée blanche, toute cette incertitude commence à peser lourdement sur l'économie française. Ça commence à se voir dans les chiffres. Et on va en parler ce soir avec nos experts. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13. Marc Toitier, conseiller économique chez Itoro. Et Alexandre Malafaye, président de Sinofia. Et puis on parlera aussi avec eux de cette possible très grosse opération dans l'automobile, puisqu'après des mois de discussions, Nissan et Honda disent aujourd'hui maintenant réfléchir à une fusion. Ce serait évidemment une opération majeure dans le secteur. Et puis ça bouge aussi dans la banque, puisqu'UniCredit aujourd'hui a annoncé être monté au capital de Commerzbank à 28%, tout en maintenant son projet de rachat de l'italienne BPM. Ça nous fait encore beaucoup d'actu à décrypter ce soir dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h.
Votre rendez-vous avec le Cello 2025, le seul salon transport et logistique sans stand, sans exposants, sans visiteurs. Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc avec cette possible très grosse opération dans le secteur automobile, puisqu'après des mois de discussions, Nissan et Honda disent maintenant réfléchir à une fusion. Bonsoir Justine Vassogne. Sur le papier, l'opération donnerait naissance au troisième plus gros constructeur mondial automobile en termes de ventes.
Ensemble, Nissan et Honda, c'est une entreprise de plus de 50 milliards de dollars. Ce sont plus de 7 millions de voitures produites par an sur le papier. Hein, parce qu'en réalité, Nissan et Honda aujourd'hui font face à des vents contraires, des difficultés en Chine, une transition chaotique vers l'électrification. À ce jeu, c'est Nissan clairement qui perd le plus. Hein. Le constructeur a déjà réalisé deux profit warnings cette année. Il a annoncé la suppression de 9000 postes. Son PDG est sur la sellette. Des fonds activistes sont entrés à son capital. Bref, Nissan est au au bord du gouffre, en tout cas pas loin du bord. Mmh. Une alliance avec Honda pourrait évidemment lui redonner de l'air. Certains glissent tout de même que Honda est un plus petit en taille que Nissan, mais dont la capitalisation est 4 fois plus importante. Aurais-tu quelques réticences avec cette question ? Faut-il vraiment aller s'embourber chez Nissan ? Les discussions se seraient accélérées ces derniers jours, selon Bloomberg, parce qu'un troisième acteur a montré le bout de son nez, le Taïwanais Foxconn, qui serait lui aussi sur les rangs pour rentrer au capital de Nissan. On devrait en savoir plus très vite, hein, d'après plusieurs médias. On attend une conférence de presse lundi prochain, organisée de concert par Honda, Nissan et son partenaire Mitsubishi.
Bon, et puis alors au milieu de tout ça, il y a Renault, évidemment, le principal actionnaire de Nissan. Quelles conséquences pour le constructeur français ?
C'est une très bonne nouvelle hein, pour le constructeur français qui a fini la journée à peu près en hausse d'un peu plus de 5% en bourse. C'était tout à l'heure. Depuis plusieurs mois, Renault voit Nissan lentement décliner. Nissan est en train de s'effondrer, nous dit-on en interne. Cela pèse directement sur les comptes de Renault, dont le résultat est encore lié à celui de Nissan. De plus, le cours de bourse de Nissan ne cesse de dégringoler depuis des mois, et cela empêche Renault de tirer un bon prix de la vente de ses actions.
Tout à fait.
Nissan, alors, deux scénarios s'ouvrent aujourd'hui. Le plus probable, Renault continue de se désengager de Nissan, mais cette fois en revendant des actions dopées par la fusion, parce que rien qu'aujourd'hui, Nissan a gagné 24% après ces rumeurs de fusion. Soit Renault, au contraire, reste actionnaire, bien que très minoritaire, ce serait autour de 5% du nouvel ensemble. Cela veut dire plus de dividendes, des synergies potentielles avec le futur troisième constructeur mondial. Alors Renault ne commente pas ce soir une fusion qui s'écrit encore au conditionnel, mais tout ce qui peut faire du bien à Nissan, nous dit-on, est bon pour Renault.
Ouais.
Renault, qui, je vous le rappelle, détient encore aujourd'hui plus d'un tiers des parts de Nissan, aura de toute façon un droit de regard sur cette fusion.
Merci beaucoup Justine. 19h05, on poursuit avec cette mauvaise nouvelle pour le climat, puisque la consommation mondiale de charbon va atteindre un nouveau record en 2024, d'après le rapport publié ce matin par l'Agence internationale de l'énergie. Et la demande pourrait encore progresser dans les prochaines années. Raphaël Couder.
Près de 9 milliards de tonnes de charbon vont être consommées en 2024 dans le monde, une hausse de 1% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Principale locomotive de cette progression, la Chine, qui brûle toujours plus de la moitié du charbon mondial. Malgré ses efforts pour déployer des énergies renouvelables, le pays continue d'accroître ses besoins en électricité, qu'il comble donc en utilisant du charbon. La demande doit maintenant se stabiliser jusqu'en 2027, estime l'Agence internationale de l'énergie, mais elle resterait, selon ses prévisions, sur un plateau haut et en très légère progression. Une mauvaise météo pourrait d'ailleurs entraîner une fluctuation à la hausse de la consommation de l'ordre de 140 millions de tonnes, reconnaît l'agence, qui ne se risque désormais même plus à prévoir un pic de la demande mondiale. En revanche, du côté des États-Unis et de l'Europe, la tendance à la baisse semble se confirmer au moins jusqu'en 2027. Le rythme de ce déclin dépendra de la mise en œuvre ou non d'objectifs climatiques ambitieux dans les différents pays.
Raphaël Couder, on vous parle maintenant de l'envolée des tarifs des mutuelles qui vous attend l'année prochaine. Plus 5,3% pour les contrats individuels, plus 7,3% pour les contrats collectifs. D'après les chiffres annuels publiés ce matin par la Mutualité française, une très forte hausse qui intervient dans un contexte d'incertitude pour les mutuelles. Hélène Cornet.
C'est une véritable envolée des prix, bien supérieure à l'inflation, bien supérieure aussi à la hausse moyenne des 10 dernières années, autour de 2,6%. Une augmentation inévitable, selon la Mutualité française, pour prendre en compte la hausse structurelle des dépenses de santé. Éric Chenu, son président.
Les dépenses de santé, elles évoluent 2 à 3 fois plus vite que la richesse nationale. C'est-à-dire que l'effort que l'on fait individuellement et collectivement pour se soigner, il augmente. Et il va continuer d'augmenter parce que la population vieillit, parce qu'il y a de nouvelles techniques médicales, mais tout ça a un coût. Et aujourd'hui, que ce soit la prise en charge par l'assurance maladie ou par les complémentaires santé, il faut qu'on puisse le financer chaque année.
À cela s'ajoute la prochaine revalorisation de la consultation chez les généralistes, le transfert de charges aux complémentaires comme les frais dentaires. Une augmentation au niveau strictement nécessaire assure pourtant la mutualité. Et ce n'est qu'une estimation, faute de visibilité, les mutuelles ont affiné leurs tarifs en se basant sur le projet en préparation du financement de la sécurité sociale pour 2025, projet en suspens en raison de la censure. Des ajustements à la hausse comme à la baisse sont à prévoir quand il sera réellement voté au Parlement.
Hélène Cornet, puisqu'on parle de santé, on va vous parler maintenant de ce drone capable de livrer des échantillons médicaux d'un hôpital à l'autre. C'est la société Deliveron qui teste ce service depuis 2 ans dans le nord de la France entre Maubeuge et Valenciennes. Et ça pourrait à terme, vous vous en doutez, révolutionner le transport médical. Sur place, on retrouve Mathilde Chaminade et Julie Michel.
Plus rapide, plus écologique et plus fiable, ce drone transporte jusqu'à 3 kg de prélèvements médicaux. Pierre Lebel, cofondateur de Deliveron, assiste au décollage.
Le drone est chargé, donc on va redéclencher le drone. Donc là, on donne le signal au télépilote qui est à Rouen de pouvoir lancer le drone. Donc c'est bon, là, il y va. Go!
Le télépilote n'aura pas trop de travail, le trajet est préenregistré. Le drone suit sa trajectoire sur 40 km, 25 minutes au lieu de 45 et 95% d'émissions de carbone en moins par rapport à un transport classique par camion. Ces trajets sont indispensables, explique Hervé Bizio, biologiste et responsable contrôle laboratoire.
Chaque laboratoire n'a pas la même puissance de feu en termes de réalisation d'analyses sophistiquées. L'idée étant de concentrer les examens les plus complexes sur un seul site pour ne pas éparpiller des ressources technologiques potentiellement très coûteuses.
Deliveron multiplie les tests dans l'Eure, la Somme et la Seine-Maritime, où le SAMU a utilisé un de leurs drones pour transporter un défibrillateur. Entre Maubeuge et Valenciennes, les essais sont concluants. Dès le début de l'année prochaine, une ligne de drones sera mise en service entre les deux hôpitaux.
Mathilde Chaminade et Julie Michel. 19h09, on va sur les marchés. La clôture des marchés à Paris avec vous Antoine Larigauderie. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Résultat des courses ce soir.
Résultat, une hausse, plus 0,26% pour le CAC 40, 7384 points du côté du marché parisien. Alors assez peu d'activité, hein, même si les volumes d'échanges sont restés globalement standards. À 3,5 milliards d'euros d'actions négociées, on attend la Fed, on ne prend pas trop d'initiatives. Hein, effectivement ce soir, l'Euronext Tech Leaders, hein, l'indice des valeurs tech, lui a un petit peu mieux réagi, plus 0,7% en clôture. Alors vous l'avez dit, leader du CAC 40, c'est Renault, plus 5,2% à 46,82€, avec en filigrane l'accélération des pourparlers autour d'une fusion entre Nissan et Honda. On a Vivendi qui gagne 3,5% à 2,60€. Les choses sont un petit peu apaisées après la scission des différentes entités. C'était un peu parti dans tous les sens. Là, les choses se sont stabilisées. Téléperformance, plus 2,5% à 82,10€. On a ST Micro, plus 2,4€ à 25,10€. À la baisse, Pernod Ricard, moins 3%, 108€. Dassault System, moins 17,33,87€. Et Edenred, moins 1% à 30,71€. Le CAC, donc plus 0,26%, 7324 points. L'euro, 1,0473$.
Merci beaucoup Antoine. Allez, 19h11 sur BFM Business. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec nos experts. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là à mes côtés en plateau. Bonsoir à tous les trois. Alexandre Malafaï, merci. Vous êtes revenu en plateau, président de Sinopia. Marc Toiti, bonsoir Marc.
Bonsoir Thomas, bonsoir
conseiller
à tous.
Économique chez eToro et à vos côtés Benjamin Correa, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences économiques à Paris 13. Messieurs, on va parler de la conjoncture en France, on va faire un peu de macro française. On a eu les dernières enquêtes, dernières notes de conjoncture de l'INSEE et de la Banque de France ces dernières 48 heures. On a cette incertitude politique qui se prolonge. On vient d'apprendre que François Bayrou recevrait demain à Matignon les responsables politiques de tous les partis à l'exception du Rassemblement National et de la France Insoumise. En attendant d'avoir cette fumée blanche, et bien que nous disent les principaux instituts? Que cette incertitude, ça y est, ça pèse sur l'économie française, ça se voit dans les chiffres. Écoutez ce que disait ce matin le chef du département conjoncture de l'INSEE, Dorian Rouchet, à notre micro.
Nous, dans les enquêtes qu'on pose aux entreprises, on ne voit pas de très forte hausse. On a une petite hausse de la part des entreprises qui nous disent « j'ai du mal à prévoir ce qui se passe dans les 3 prochains mois ». Mais ce n'est pas massif à ce stade. Et c'est vrai que l'incertitude actuelle, elle reste moins forte qu'au moment de la crise sanitaire, où là, vraiment, vous ne saviez pas ce que vous allez pouvoir faire demain. Mais par contre, ce qu'on voit, notamment sur l'investissement, c'est qu'aujourd'hui, on devrait, en début 2025, dans toute logique, on devrait avoir une accélération, en tout cas une baisse moins forte, puisque la baisse des taux commencerait à se diffuser à l'investissement des entreprises. Quand on regarde les réponses des entreprises, elles restent encore très prudente, bien plus que ne suggéreraient les déterminants macro, notamment l'amélioration attendue des conditions de financement. Donc dans ce supplément de pessimisme des entreprises sur l'investissement, on peut y voir l'effet de l'incertitude. Elles sont prudentes sur l'investissement dans les usines, les entreprises en France, parce qu'elles ne savent pas trop quel va être l'environnement fiscal, l'environnement social auquel elles seront confrontées dans quelques mois.
Alors, Marc Toiti, vous réagissiez avant même la fin de cet extrait.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est vrai que l'incertitude politique n'arrange pas les choses, c'est un drame, bien entendu, et surtout que ça ne s'arrange pas. Moi, en fin d'année, je fais pas mal de conférences pour voir justement les chefs d'entreprise qui me disent clairement, les projets d'investissement sont stoppés, les embauches, etc. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ni même de la dissolution. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, l'investissement des entreprises a enregistré 4 trimestres consécutifs de baisse. Ouais. C'est-à-dire que déjà, dès la fin 2023, ça a commencé.
Tout à fait.
L'investissement des entreprises. Donc, ça veut dire que c'est l'indicateur avancé de l'emploi de demain. Donc, ça a déjà commencé. Et le drame, c'est que maintenant, l'INSEE, évidemment, se réveille en disant, ah, bah, c'est à cause de l'incertitude politique. Bien sûr que ça n'arrange pas les choses, mais ça avait déjà commencé. L'investissement logement des ménages, là, c'est encore pire. 13 trimestres consécutifs de baisse. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que on a effectivement un drame. Et alors, la conséquence de cela, c'est bien sûr les défaillances d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, chiffres de la Banque de France, encore une fois, qui le disent.
On en est à 66 000 sur 12
mois. Et parallèlement, moi, ce qui m'a beaucoup choqué la semaine dernière, sont sortis les chiffres d'Eurostat sur le taux de chômage dans la zone euro et notamment en France. Donc, taux de chômage en France de catégorie A, hein, bon, il augmente, il est à 7,6% contre 6,3% dans la zone euro. Mais surtout, le taux de chômage des jeunes. Des moins de 25 ans. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aides, etc., des formations, voilà, pour réduire ce taux de chômage.
Oui, les aides à l'apprentissage notamment, mais bon.
Voilà.
On ne sait pas ce qu'elles vont devenir
sauf
avec la loi.
Malgré cela, en 3 mois, le taux de chômage des moins de 25 ans en France est passé de 17% à 20,8%. Quasiment 21% de taux de chômage. Donc, ça a déjà commencé, et le problème, c'est qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir. Parce que ben, y a pas de gouvernement, on ne prend pas de décision. Donc, comment on va réussir à s'en sortir, sans oublier les taux d'intérêt de la dette publique française qui augmente. Donc avec une, même si la BCE baisse les taux, ça ne suffit pas, puisque comme les taux d'intérêt des obligations augmentent, ça a des répercussions sur les taux d'intérêt des crédits, des entreprises et des ménages. Donc je suis désolé de le dire, mais pour moi, j'ai ajusté mes prévisions avec mes équipes pour 2025. On est plutôt à 0,5% de croissance.
De croissance, ouais.
Seulement. Ouais. Pour 2025.
D'après l'INSEE, 0,5%, c'est l'acquis de croissance à mi-année. Benjamin Coria, comment est-ce que vous regardez la situation? Est-ce que vous êtes inquiet, vous
non,
aussi?
Non, mais je souscris à ce qui a été dit. C'est sûr que la situation d'indécision actuelle, elle est vraiment mortifère, quoi. Surtout qu'on voit pas du tout la sortie, parce que à la limite que ça soit blanc ou noir, je veux dire du point de vue des choix, ça aura pas le même effet, mais au moins les gens s'adapteront. Voilà. Là, on ne sait pas si c'est blanc, si c'est noir, si c'est rouge, si c'est vert. Et ça fait quand même un moment que ça dure. Bon, ceci dit, ce qui a été dit avant moi, j'y souscris pleinement. C'était commencé bien avant, hein, je veux dire. On avait atteint les limites d'un certain type de politique. Et puis, ce que nous dit l'OFCE aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, un certain nombre d'entreprises qui, jusqu'à présent, s'étaient abstenues, notamment en ce qui concerne l'emploi, s'alléger.
Ouais.
En attendant que la conjoncture se dessine, ben maintenant elles y vont.
Ouais, c'est ça.
Donc, je veux dire.
Ça, c'est le retour de bâton du Covid.
Voilà.
Pendant le Covid, on a voulu garder de la main-d'œuvre.
Voilà.
Et là, maintenant, c'est le moment de lâcher les travaux.
Le quoi qu'il en coûte, l'ensemble des mesures prises, etc.
Non, mais ça a été flagrant à ce moment-là.
Donc, voilà. Donc, c'est.
L'INSEE prévoit effectivement une remontée du chômage l'an prochain et en 2026 à 7,8. On a 7,4 en 2028.
Donc, c'est très inquiétant parce que, bon, c'était pas un bon indicateur, mais c'était quand même pas le plus mauvais, celui-là.
Ah non, le marché de l'emploi, là, pour le coup.
Enfin, ceci dit,
s'il y a bien une encre, ça reste des moyennes, mais s'il y a bien une encre pour le coup qui tenait la route, c'était celle-là.
C'est déterminant, c'est la vie du quotidien des Français.
Oui, oui, non, mais je veux dire, on le présente souvent comme une très bonne performance française. Ça reste quand même la deuxième plus mauvaise performance en Europe, hein.
Non, bien sûr. Non, donc, vu d'où on partait, d'au-delà
voilà,
de 10%.
Voilà, donc c'est très ennuyeux. Voilà,
Alexandre Malafaille.
Ce qui est vrai, c'est qu'il ne fallait pas dissoudre, parce qu'on levait forme de
fagot
dans
le problème dans tous les sens.
Voilà, là, c'est vraiment compliqué. Mais
ça, c'est fait. Maintenant, on fait avec.
Les indicateurs n'étaient pas bons avant. Ça, on avait sur votre plateau ici, à de nombreuses reprises, par exemple, attiré l'attention sur la défaillance des ETI, qui étaient en train, effectivement, de monter en pression dès 2023, qui sont des signaux qui ne sont pas des signaux faibles, qui montrent quelque chose. Mais on a une façon de faire de la politique en France où, même si, en effet, depuis que Macron est arrivé, il y a eu une volonté quand même de s'occuper de l'économie, mais on s'est quand même rassuré avec beaucoup de chiffres. On se dit, c'est vrai, 7% de chômage, c'est bien. Moi, je défends toujours l'idée que ce sont des arbres qui cachent la forêt. Parfois, même, on plante des arbres artificiels pour dire, tiens, avec tel dispositif, on a l'impression que, globalement, ça va. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie des entreprises, des petites entreprises, la vraie vie des vrais gens dans les quartiers, etc., c'est pas ça. Donc, on fait de la politique un peu fuite en avant, et en effet, on a touché à la fin d'un système. Pour ça qu'on le voyait venir, de toute façon, le problème. Et en plus, quand vous avez, par exemple, dans le logement, 7 ministres en 7 ans, voilà, non, mais, pardon, mais je veux dire, c'est vrai, dans pratiquement tous les périmètres et de l'économie, la vie publique, la vie sociale, on passe son temps à changer les dirigeants. Alors, c'est pas eux qui font tout, mais quand même, ils font comme la loi a des conséquences lourdes. D'ailleurs, s'ils étaient si doués pour faire la loi, ils auraient sans doute pas fait la CSRD et la CS3D, parce que cette loi-là, ils l'auraient évaluée avant de la faire sérieusement. On est dans un pays où on fait de la politique sans faire des études d'impact, on n'évalue pas les lois d'avant. Donc tout ça fabrique forcément une mécanique qui est assez mal pilotée. Et en plus, on ne sait pas ce que c'est que l'économie. On pilote en France l'économie, et même en Europe, comme si le reste du monde n'existait pas. Il y a des constances aux États-Unis, il y a des constances dans d'autres pays où effectivement ils tiennent leur ligne dans la durée. En France, on a une approche idéologique de l'économie, donc on verra après. Bah oui, on voit bien.
Marc Toiti. Oui.
Non, mais surtout, c'est-à-dire que moi, je rage un petit peu, si je peux me permettre. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec Emmanuel Chypre, parce qu'il a quitté le plateau.
Ben oui,
ça a été le déni de réalité. C'est-à-dire que ce soit effectivement certains économistes, journalistes, etc., ou les politiques. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, Bruno Le Maire, quand il était ministre de l'économie, disait c'est les 30 glorieuses en France, c'est le retour du plein emploi. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça. Futur, alors qu'on voyait très l'économie. Bien, encore une fois. Ici même, je l'ai dit plusieurs fois, et je suis pas devin, je suis pas un magicien. Simplement, quand on regardait les chiffres déjà au début de cette année, même l'année dernière, on voyait que ça n'allait pas. C'était pas simplement une correction du Covid ou autre. On voyait bien que les taux d'intérêt augmentaient, les entreprises commençaient à souffrir. Et donc nous, non, malheureusement, les dirigeants disaient non mais tout va bien. Et donc c'est ça qui fait mal aux Français, c'est qu'en fait ils sont pas préparés. C'est-à-dire que on leur dit par exemple, ah ben, l'inflation, vous inquiétez pas, ça n'augmentera jamais. Puis on a atteint des sommets d'inflation. Après, les taux d'intérêt, vous inquiétez pas, ça n'augmentera jamais. Et évidemment, les taux d'intérêt ont augmenté parce que comme la dette publique a flambé et que bon, il y avait plus la planche à billets, les taux d'intérêt ils sont revenus à un niveau normal, va-t-on dire. Sauf que ça, tout ça, il faut payer. Vous voyez, c'est ça qui aujourd'hui fait mal, c'est que comme on a entre guillemets masqué la réalité aux Français, maintenant qu'ils la découvrent finalement, alors qu'on pouvait l'avoir déjà depuis quelques mois, mais c'est ça qui est très compliqué. Ouais, mais... Et moi, ce qui m'inquiète, tout à l'heure, je parlais du taux de chômage des jeunes, c'est que la jeunesse, justement, c'est la force d'un pays. Et donc, si effectivement ces jeunes sont malheureusement au chômage, c'est des tentations, justement, d'avoir des risques sociaux et sociétaux. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, un grand pays comme la France, il doit justement avoir une classe moyenne qui vit bien et des jeunes qui arrivent à trouver facilement du travail. Parce que quand les jeunes sont au chômage, ça joue sur les parents, ça joue sur les grands-parents et donc sur l'ensemble de la société française. Donc, c'est ça, moi, qui entre guillemets.
Et alors,
c'est qu'on a ce décalage entre les dirigeants politiques, comme vous l'avez bien dit, effectivement, qui ne veulent pas voir la réalité, et puis la réalité du quotidien, où là, malheureusement,
alors c'est justement, Marc, difficile. Vous n'avez pas fait exprès, mais vous tendez une perche à Alexandre Malafaille, puisque vous êtes là aussi ce soir pour nous parler d'une étude que vous venez de faire avec Odoxa sur les Français face au changement.
Ah.
Dans cette étude, 55% des Français pensent que le changement est négatif pour eux, et la première raison pour laquelle ils pensent ça, c'est la défiance vis-à-vis des politiques.
Alors c'est vraiment ça. Enfin, c'est dans Odoxa et Mascaré, je le précise.
Oui.
En fait, c'est un sondage qu'on a voulu commander pour voir effectivement quel est le rapport des Français personnels avec le changement. Donc, on a interrogé les Français sur pas mal de points. Et on a une quarantaine de points de mesure, par exemple, qu'on a voulu suivre de près. Et on se rend compte que sur 40 points de mesure, vous avez globalement, il y en a 8 qui sont positifs, c'est-à-dire au-dessus de 50%. Pour les autres, en fait, ils sont négatifs. Et ce qui ressort de là, c'est que globalement, les Français subissent le changement. Ça, c'est aux trois quarts. Donc, en fait, non seulement on leur dit pas la vérité, mais en plus, mais en plus, effectivement, ils subissent pour l'essentiel, pratiquement dans tous les comportements de leur vie, santé, transport, éducation, changement climatique, le logement, les loisirs, et ils disent que ça se dégrade. Voilà, de manière durable pour eux, de maintenir, avec le recul du temps, ça se dégrade. Donc c'est vrai que c'est difficile de gouverner un pays dans lequel vous ne pilotez pas le changement, vous ne prenez pas en compte l'attention portée aux gens. Après, vous avez des décisions qui sont prises et qui ne sont pas du tout supportées par les Français. La fin du moteur thermique à horizon 2035, ça, pour le coup, c'est contesté par trois quarts des Français.
Ouais.
Donc ils vous disent clairement non, on ne veut pas. Alors on veut bien ça. Parce qu'en même temps, ils ne sont pas totalement pour le fait qu'il faut trouver un équilibre entre fin du mois et fin du monde. On leur a posé la question, mais pas n'importe comment. Et après, quand vous les interrogez sur le point de savoir s'ils se sentent respectés, écoutés, protéger, guider à peu près où on va, savoir
là,
si on prend,
dingue, hein.
Si on prend en compte leur avis, si on leur propose un projet de société clair et fédérateur, et si par hasard on agit pour unir la nation, là à chaque fois on est à plus de 90% de gens qui disent non.
90%.
Oui. C'est une claque magistrale à l'attention des gens qui nous gouvernent et qui nous ont gouvernés pour dire attention, vous pilotez le pays en oubliant qu'il y a des Français. Vous faites de la politique sans tenir compte des réalités vécues. Je parlais des arbres qui cachent la forêt. Alors on plante des jolis armes, on fait semblant. Et ça, c'est un vrai sujet majeur, parce que si on continue comme ça, effectivement, la société française, qui est structurellement un peu résistante au changement, mais toute société, d'ailleurs, ils le disent, les Français, ils pensent qu'effectivement, la société est plutôt résistante que pas résistante, mais après, ils accusent quand même les politiques pour leur dire, vous êtes les responsables, parce que globalement, on n'a pas confiance en vous. Et ensuite, ils considèrent qu'il y a beaucoup de corporatisme, c'est pas un scoop ce soir ici sur votre thème, il y a beaucoup de corporatisme, qui explique aussi, effectivement, les blocages de la société. Mais là encore, si dans une entreprise, on gérait le changement comme on gère le changement dans un pays, eh bien, je pense que les boîtes, elles disparaîtraient toutes. Le seul truc qui peut sauver une boîte, c'est de trop bien payer les gens. Et après, éventuellement, on peut leur parler mal, pas les écouter si on est brillant et que ça dure, mais c'est le seul élément qui vous sauve éventuellement. Sinon, dans un pays, ça ne peut pas tenir et ça ne tient pas. Et on voit petit à petit l'électorat voler en éclats dans tous les sens, s'éparpiller façon puzzle. On voit les gens voter de plus en plus pour des alternatives radicales, mais sans que tout ça ait du sens, parce que personne ne fera mieux.
Benjamin Coria,
non, mais
vous êtes d'accord avec ça? On a des gouvernants, mais qui pilotent un train où il n'y a plus personne dedans?
Non, mais moi, je suis pas surpris par les résultats de votre sondage. On gouverne quand même, enfin, on a gouverné au cours des dernières années de manière relativement brutale. Enfin, la forme, ça a été des décisions très importantes par décret, hein, je pense, la manière dont on a brûlé les partenaires sociaux, en leur donnant des agendas intenables pour pouvoir ensuite reprendre la main, etc. Bon, je vais pas revenir sur la réforme des retraites, parce que, bon, voilà, mais la manière dont elle est passée, comment vous voulez que les gens trouvent ça bien ? C'est tout à fait impossible. Bon, moi, ce qui me fait problème, si je peux dire, pour l'avenir, puisque maintenant, il faut quand même essayer de parler de l'avenir, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur comment on fait face à la crise. Moi, dans le budget Barnier, je vais parler cash, hein, j'ai l'habitude de parler cash. Évidemment, je trouvais qu'il avait des tas de défauts.
J'étais pas vous pouvez le dire.
J'étais pas du tout sûr que... Oui, d'accord, mais je vais quand même vous surprendre. Je pense que ce qu'il avait de positif, c'est qu'il avait cassé un tabou. Le tabou qu'on touche pas à la fiscalité des riches et des hauts revenus. Et que donc, il rendait possible une discussion. Bien. En fait, c'est pour ça qu'il est tombé, à la fin. Bon, donc
entre
je veux dire,
autres,
c'est ça le
ça
plus.
Ça et les retraites, il y a bien un tabou dans
ça
le pays.
Ça et les retraites. Bon, donc c'est le plus inquiétant d'une certaine manière. Le plus inquiétant, c'est que il y a à peu près unanimité sur le fait qu'on est arrivé au bout d'un système. Hein, voilà, que de toute façon il y a qu'à regarder les chiffres d'avant la crise politique, si je peux dire. Hein. On était arrivé complètement au bout. Mais il n'y a pas du tout consensus sur pourquoi et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc moi, ça, je trouve ça très inquiétant.
Oui, juste un numéro pour dire, pour compléter ce que vous dites, après, je voulais
après,
juste pour dire que non seulement il n'y a pas de consensus sur, mais il n'y a pas non plus de diagnostic commun. C'est terrifiant. C'est qu'on est un des rares pays au monde où globalement on est incapable d'appréhender les fondamentaux d'une manière à peu près rationnelle et partagé. Alors après, on peut prendre une orientation, dire on va plutôt par là ou par là. Mais vous regardez l'économie, selon que vous êtes de droite ou de gauche, c'est la faute des entreprises, c'est la faute des patrons, c'est la faute de ci, etc. Vous êtes à droite, vous dites exactement le contraire.
Ah bon, on l'a vu à l'Assemblée, oui, au moment où le budget, c'est tout et son
rôle. Voilà, et vous considérez qu'on peut effectivement tailler dans l'État de manière extrêmement magistrale, et vous allez voir ce que vous allez voir, qu'on peut aller faire la poche de ceux qui effectivement qui fraudent et que ça va renflouer les comptes. Enfin, on raconte tout et n'importe quoi, donc ça bourre le mou des Français qui sont perdus, et surtout, on n'est pas capable d'avoir un diagnostic sain pour dire bon, là, on est là, c'est peut-être un peu catastrophique, donc il faut s'en servir.
Il y a deux choses.
Et après, on marque une pause.
Effectivement, on n'a pas de culture économique qui est très dévoyée, effectivement. Et donc, ça, c'est ce qui fait beaucoup de mal. Fait que des fausses idées vont pouvoir passer, etc. Et parallèlement, voilà, il y a une classe politique également. Et là, c'est la même depuis 40 ans, finalement, et qui entretient, justement, le niveau de vie d'une certaine caste, etc. Et ça s'arrête là. Quand on dit aujourd'hui aux Français, il faut vous serrer la ceinture, attendez, les Français, ça fait des années qu'ils se serrent la ceinture.
Ouais.
Sur les entreprises, les salariés. Par contre, les dirigeants politiques, les hauts fonctionnaires, etc., eux, non. Les dépenses de fonctionnement, je remets sur ça, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, sur les dernières années, en 3 ans, ont augmenté de plus de 15%, quasiment 16%. Alors que les dépenses publiques, au total, ont augmenté que de 12%. Mais ça, c'est du bon sens, c'est même pas de l'économie ou de la politique.
Ouais.
Quand vous avez une entreprise qui va mal, ou même un ménage qui va mal, vous réduisez vos dépenses de fonctionnement. Hein, et pour justement sauver l'entreprise, sauver le ménage. Là, qu'est-ce qu'a fait l'État ? Non, il a encore augmenté ses dépenses de fonctionnement, et plus que les dépenses normales, si vous voulez. Et donc, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas, encore une fois, de la politique, c'est une réalité économique, mais qu'on ne veut pas voir en face. Et je disais, nos dirigeants, ils doivent faire un mea culpa, qu'ils ne font toujours pas. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec François Bayrou.
Oui, oui.
Voilà, on est dans le Capharnaüm, c'est assez incroyable. Vous voyez ? Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, effectivement, c'est ça, c'est pour l'avenir, comment on va s'en sortir ? Et pour l'instant, on ne voit pas d'issue.
Allez, je vous laisse 2 minutes pour brainstormer. On marque une pause, justement. Je vous redonne les principaux titres de l'actu.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir, la suite, on est en direct jusqu'à 20h avec Benjamin Coria, Marc Toiti, Alexandre Malafaille. Je vous ai laissé brainstormer pendant 2 minutes. On va continuer avec les partenaires sociaux, puisque vous doutez que cette conjoncture au beau fixe les réjouit au plus haut point. Ils ont fait quelque chose de très rare. Ils ont transmis à l'AFP, c'était en fin de journée hier, un communiqué commun, à l'exception de la CGT, pour alerter les politiques sur leurs responsabilités dans la crise économique et sociale qui se profile. Écoutez ce que disait ce matin le président du MEDEF, Patrick Martin, c'était chez nos confrères de LCI.
Moi, je pense qu'en instantané, je connais la définition technique de la récession, 2 trimestres d'affilée de baisse de la production, mais à l'instant où je vous parle, je suis malheureusement affirmatif en espérant me tromper. Je pense que nous sommes en récession. Il n'y a plus un moteur de la croissance qui est allumé, sauf peut-être, et ce serait fâcheux, l'investissement public, alors qu'on est si endetté.
Alexandre Malafaille, pour vous, on est en récession là ? On est rentré en crise économique ? On est au-delà des difficultés économiques ?
Il n'y a rien qui peut empêcher qu'on ne le soit pas. En fait, c'est juste la
question. La croissance, on est à 1% de croissance.
Non, mais la croissance.
Non, mais c'est l'année dernière, ça.
Non, 2024.
Oui, ben ça, 2024.
Et 2025, on est à 0,9 d'abord.
Comment voulez-vous, avec la dynamique qu'on est en train de construire depuis un certain nombre de mois, voire d'années, avec tous les paramètres qui sont aujourd'hui en train de ralentir en matière d'économie, d'investissement, avec la crise de la dette qui explique, comment voulez-vous qu'à un moment donné quelque chose qui repart ? Donc je pense qu'effectivement, Patrick Martin a raison de tirer le signal d'alarme, mais je pense que les partenaires sociaux, et ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont quand même un tout petit peu connectés au réel, eux, de toute façon, ils sont en prise avec la réalité. Partenaires sociaux sont quand même avec les gens dans les entreprises, etc. Et le MEDEF, CPME, etc., ils sont très connectés. Et ça fait très longtemps qu'ils tirent le signal d'alarme en disant attention, c'est en train de dérailler. Voilà, le fait qu'ils le fassent et qu'ils le fassent ensemble, en laissant de côté la CGT pour des raisons idéologiques, j'imagine, ça veut dire qu'ils estiment que la situation est très grave. Je pense que ça, c'est un message qu'il ne faut pas prendre comme étant un signal faible. Donc ce serait bien que ça envoie un message aux gens qui sont dans l'hémicycle qu'on voit derrière vous. Mais je ne suis pas certain, malheureusement, qu'ils aient tout ça suffisamment fort.
La dernière fois qu'on a une déclaration commune des partenaires sociaux, c'était au début du Covid.
La situation est très grave. Moi, je pense qu'effectivement, là, vous citiez tout à l'heure les chiffres de l'année dernière, de l'INSEE, etc. Si on regarde sur le quatrième trimestre, pour l'instant, on pourrait avoir une baisse du PIB de 0,3% sur un seul trimestre. Pareil pour le premier trimestre 2025.
Normalement, on sera flat, on sera à zéro.
Ouais, hein. C'est là que se dit la Banque de France. Mais elle disait aussi qu'on avait une croissance forte, je dirais, sur l'année. On voit bien qu'elle, de jour en jour, elle révise. Parce qu'elle ne veut pas affoler, effectivement, la population, entre guillemets. Sauf que là, encore une fois, c'est une réalité du terrain. Parce qu'il y a évidemment les statistiques et autres. Ouais. La réalité du terrain aujourd'hui, moi, je la vois aussi tous les jours, avec cette inquiétude et surtout cet arrêt des projets d'investissement. Ça fait déjà 4 trimestres que ça dure et ça continue. Mmh. Et donc, on va avoir une baisse du PIB au quatrième trimestre, donc 2024. Heureusement qu'il y a Noël et qu'il y a des dépenses un petit peu de fin d'année. Mais même là, encore une fois, il y a
des... La consommation n'est pas extraordinaire.
C'est ce que je vous dis. C'est qu'il y a 40% des Français, a priori, qui auraient des difficultés pour joindre les deux bouts chaque mois. Mmh. Enfin, 40% des Français, des ménages. Mmh. Donc, il y a une situation extrêmement compliquée qui est là. Donc, mais c'était le dernier moteur qui restait, c'est la consommation. Il n'y a plus d'investissement des entreprises, ni investissement donc, des ménages. Donc maintenant, la consommation également est en train de tomber malheureusement. Donc oui, la récession, elle est là. On ne dit pas ça pour faire peur, on dit pour faire réagir. Le drame, c'est que tant qu'il n'y aura pas de visibilité politique, a fortiori économique, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas redémarrer. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut un électrochoc. Ouais. Alors, est-ce que ça peut être... une démission du président et des élections présidentielles, je sais pas, ou une législative on va dire à mi-2025, mais là on voit bien que regardez la difficulté pour former un gouvernement.
Ouais.
C'est-à-dire que tout à l'heure il y a une rumeur comme quoi monsieur Bayrou avait remis sa feuille à monsieur Macron, puis finalement Macron a dit non. Il y a le gouvernement n'est pas prêt.
Mais on voit bien qu'on tâtonne effectivement et tout ça se traduit de plus en plus dans l'économie.
Ça crée de l'incertitude et c'est ce qui fait que malheureusement pour l'année prochaine, je vous dis, on aura 0,5%.
Votre regard à vous, mauvaise passe économique ou on rentre vraiment dans une crise plus profonde là ?
Écoutez, moi j'ai pas la réponse à cette question, mais je suis très très inquiet. Oui, je suis très très inquiet parce que la mauvaise passe économique, elle est avérée. Vous interrogiez sur la question de savoir si on allait entrer en récession. Techniquement, c'est on peut en discuter, mais sachant
c'est ça,
que
c'est ça qui est frappant. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois qu'on a des contradictions entre les statistiques et
oui,
ce que disent les patrons.
Non, mais là,
depuis... encore une fois, la Banque de France nous dit, en gros, enfin, et l'INSEE, 1% de croissance. Et là, on a Patrick Martin qui persiste et signe, qui nous dit, non, moi, je vous le dis, je parle à mes fédérations, je parle au terrain, on est en récession.
Oui.
Contradiction autour des chiffres.
Non, mais moi, j'aurais tendance à penser que les deux points de vue peuvent se réconcilier à partir du moment où il y a à peu près un accord sur le fait que, même d'un point de vue technique, l'investissement, etc. Bien, on est dans une pente descendante, et dans la mesure où il n'y a pas de pilote, on ne voit pas pourquoi cette pente descendante continuerait pas. Je veux dire, en l'absence de signaux sur le fait qu'on peut aller dans telle ou telle direction pour les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, etc., on va continuer de sombrer. Donc, si vous voulez, moi, je suis plutôt... je pense que c'est pas du tout évident qu'on va éviter une crise politique, oui. Une crise
non, je parle économique.
Oui,
mais les deux sont liés.
Économique.
Oui, les deux sont liés.
Allez.
Bon, alors c'est vrai que je reviens sur cette décision, enfin cette déclaration commune des partenaires sociaux. Ouais. C'est tout à fait remarquable, hein, parce que ça arrive vraiment pas souvent. Donc ça veut dire qu'il y a une inquiétude.
Oui, ça en dit long.
Et l'aspect positif. Une disponibilité à négocier, parce que du point de vue des syndicats, je me place de ce côté dans cette discussion.
Bah ouais.
Du point de vue syndicat, accepter de faire une déclaration commune avec.
Oui, oui, il montre un peu l'exemple quelque part aux élus.
Ben, ça veut dire que de part et d'autre, on est prêt à faire des choses, à discuter, à faire des compromis. Donc c'est quand même un appel du pied aux politiques en disant mais arrêtez vos conneries, quoi, d'une certaine manière.
Ils ont été
Il y a des choses à faire et nous, on est prêts à le faire.
Ils ont été tellement mis de côté pendant des années pour le coup par Emmanuel Macron qu'à faire sans les corps intermédiaires, sans les partenaires sociaux, ça se paye cash aussi. Hein.
Mais oui, bon. Et donc là, ils reviennent. Ils reviennent pour dire mais on est prêts.
À prendre nos responsabilités.
La France est prête, c'est ça. Le
Alors, on a parlé des difficultés économiques de la France. Ça se passe évidemment beaucoup mieux aux États-Unis, où la Fed devrait annoncer d'ici 20 minutes une nouvelle baisse des taux. 25 points de base, la troisième depuis le mois de septembre. Après, on devrait appuyer sur pause, attendant de voir ce qui se passe avec Donald Trump. Globalement, l'économie américaine est sous contrôle.
Moi, j'ai envie de dire, même la baisse des taux d'intérêt n'est pas justifiée, parce qu'il y a quand même 3% de croissance au minimum aux États-Unis. Donc là, on est très loin de ce qui se passe chez nous, hein, ne l'oublions pas. Avant l'effet Trump, parce que là, qui vont jeter dernièrement, j'avais des correspondants américains, qui me disent qu'il y a une sorte de Trump mania assez incroyable, hein, même les démocrates à Trump mania, bon, donc tout le monde a envie d'investir, etc. Et on a eu cette semaine les indicateurs des directeurs d'achat, notamment dans les services, ça explose à la hausse. Alors que chez nous, en France, dans la zone euro, on est en récession, surtout en France. Aux États-Unis, ça explose à la hausse, donc ça va très bien. Et la semaine dernière, on a eu quand même les chiffres de l'inflation qui augmente.
Bah c'est ça.
On est à 2,7% d'inflation au niveau global, 3,3% hors énergie et produits alimentaires. Donc on est quand même très très loin de l'objectif de la Réserve fédérale qui est de 2%.
Ouais.
Donc là, la Réserve fédérale, elle baisse tout d'intérêt pour faire plaisir au marché, encore une fois, mais elle ne devrait pas le faire. Elle prend des risques, entre guillemets, sachant que...
Eh bah si elle le fait, vous le dites, il y a encore un peu de l'inflation.
Non,
c'est pour ça qu'elle baisse ses taux.
Mais non, au contraire, s'il y a de l'inflation, faut pas qu'elle baisse les taux.
Ouais.
Si l'inflation est élevée, elle doit limiter l'inflation.
Ouais,
donc si l'inflation est forte, si la croissance est forte, elle doit pas baisser les taux d'intérêt.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Tout va bien. Il y a un taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis de 4,1-4,2%. Les salaires augmentent chaque année de plus de 4%. C'est-à-dire plus que l'inflation. Donc, ouais, donc ça va bien. Donc si je baisse les taux d'intérêt, ça va
être
encore...
On va rajouter.
Donc je pense que là, c'est un peu dangereux ce qu'elle fait.
Ouais.
Ça nuit à sa crédibilité.
C'est pour ça que normalement... Ouais.
Puisque justement, elle en fait un peu trop, sachant que ça va pas si mal que ça aux États-Unis. Et par contre, juste dernier point, il y a un impact pour nous quand même, c'est l'euro-dollar. Hein, on l'a vu que l'euro est en train de baisser.
Ouais,
ça, c'est bien pour nos exportations.
Ouais.
Par contre, effectivement, quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Donc l'inflation va également augmenter chez nous. Donc on a bien la stagflation, ça veut dire stagnation économique voire récession, et inflation qui va rester élevée également en France et en Europe.
Oui, enfin, sauf que chez nous, ça a bien baissé pour le coup. Ça y est, là, on est sorti de cette
inflation.
On est repassé sur les
2%. Ça y est, on est remonté.
En France et en Europe.
En France, mais dans la zone euro. Les chiffres, on est à
2,3%. Alors, aux États-Unis, vous le dites, on a plutôt.
Mais ça, si vous regardez des indicateurs avancés, malheureusement, ça risque de repartir à la hausse.
Il y a ce risque-là pour 2025.
À cause de la
Benjamin Correa, pourquoi les États-Unis ne sont pas, en tout cas maintenant, au moment où on se parle, sortis de l'inflation comme nous?
Pourquoi ils ne sont pas sortis de l'inflation? Parce qu'ils ont fait un déficit budgétaire absolument abyssal, et que à la fois pour des raisons électorales, mais aussi pour des raisons de compétition mondiale, si je peux dire, ils ont fait un appel à travers des promesses de subventions et de dégrèvements fiscaux à tous les investisseurs internationaux qui ont suivi d'ailleurs, qui vont en masse,
ouais, l'Irak,
et que tout ça leur coûte de l'argent. d'argent. Donc,
ça le rapporte
en même temps, oui, en même temps, ils en ont un certain nombre de bénéfices. Alors moi, j'ai envie de dire à ce point que, bon, c'est plutôt bien hein, que la Fed ait baissé les taux, enfin en tout cas, pour nous Européens et pour nous pays très endettés, ouais. Bon, parce que si on regarde du fond de son puits, il y a quand même ça. Maintenant, je pense que la vraie question, et qui va l'emporter sur la question de la baisse des taux, c'est quand Trump va accéder aux affaires, c'est-à-dire très bientôt, voilà. Est-ce qu'il va déclencher sa guerre commerciale voilà. comme il a annoncé qu'il allait le faire ouais. Parce qu'à ce moment-là, les 25 points de base, c'est 3 fois 0
ouais,
par rapport à la tornade qui va se développer. Donc c'est ça la question qu'il faut suivre.
Est-ce que ça c'est de l'inflation garantie ?
Mais oui. En tout cas, c'est un désordre dans les flux monétaires et donc dans les flux de marchandises. Mmh. Oui. Et par derrière, donc dans les flux financiers, très important. Mmh. Donc, je pense que c'est la boussole qu'on
mais
doit avoir.
Mais des droits de douane, des surtaxes, mécaniquement, ça renchérit les prix. Donc, ce serait inflationniste.
Oui, oui, oui. Dans un premier temps, c'est très nettement inflationniste. Ouais. Ça fait pas l'ombre d'un doute.
Ouais.
Donc, à mon avis, c'est ça sur quoi il faut avoir les yeux fixés. C'est qu'est-ce qu'il va vraiment faire. S'il fait ses 25% sur le Mexique, hein, comme il l'a annoncé.
Ouais, tout à fait. Les premières cibles, c'est Canada et Mexique. Ouais.
Mais ça, c'est une tornade, hein, parce que ouais. vous savez quand même que les camions qui chargent les pièces automobiles. Mobile, elle passe 8 fois entre les États-Unis et le Mexique ouais. avant que la voiture soit montée. Mmh. Donc vous voyez un peu le cataclysme. Ouais. Il y a quelque chose là.
Ouais, Alexandre Malafaï, Donald Trump, c'est le retour anticipé de la surchauffe.
Ce qui est certain, c'est que les Américains, de manière durable, montrent qu'ils ont quand même un certain sens du business.
Ah, ils ont envie, oui.
Voilà. Donc ça reste. S'il y a un continent ou un pays dans le monde dans lequel globalement on sait ce que c'est que les affaires et les entreprises, c'est comme le modèle américain. Mmh. Ils l'ont démontré depuis des décennies. Voilà, tous les champions viennent de chez eux. Ils quand même contrôlent l'économie, le dollar, la monnaie. Ils se servent de la loi. Voilà, ils ont des champions mondiaux dans tous les sens. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Après, effectivement, il y a des luttes, il y a des paris politiques qui peuvent se gagner ou se perdre sur ces sujets-là. Il y a vraiment, évidemment, beaucoup de choses à redouter. Et en même temps, Donald Trump a toujours une approche assez pragmatique. Ça reste un négociateur. Avant de déclencher, si je puis dire, l'Armageddon sur tel taux de taxe ou autre, il va bien effectivement essayer d'obtenir le meilleur. Après, s'il faut aller à la rupture, il ira à la rupture, il saura faire. Mais je pense que ce qu'il va continuer à faire, c'est ce qu'il a plutôt bien fait dans les 4 premières années de son exercice de pouvoir, c'est plutôt effectivement de privilégier l'économie, le transactionnel, éviter de faire la guerre, qui est aussi un autre problème. Vous parliez du puits abyssal de la dette américaine. Je veux dire, quand vous faites la guerre et que vous soutenez la guerre par-ci, par-là, etc., et c'est pas que par-ci, par-là, ça fait forcément des gros trous dans la planche à billets américaine. Donc je pense qu'effectivement, il y a une approche pragmatique. Moi, j'ai plutôt, quand j'observe l'histoire avec du recul, plutôt confiance dans la façon des Américains de prendre ça au sérieux et de ne pas faire de gros dérapages.
Marc Totti, il y a beaucoup de banques américaines qui s'attendent à ce que les taux remontent.
Oui, moi je pense qu'ils vont arrêter de baisser. C'est sûr qu'ils vont arrêter de baisser, voire
remonter un petit peu. Mais là, ils vont plus loin.
Parce que ça ira trop bien. Donc il n'y aura qu'une surchauffe. Forcément, ils vont devoir monter le taux d'intérêt. Déjà, aujourd'hui, ils ne devraient pas les baisser normalement. Mais voilà, elle veut faire plaisir au marché, voire à Trump, etc. Moi, je ne peux pas oublier que Trump.
Lui, Trump, il demande ça, bien sûr.
Oui, parce que Trump, il a dit pendant sa campagne que justement, il voulait contrôler la réserve fédérale. Il ne faut pas l'oublier.
On va retrouver le clash Trump-Powell qu'on avait déjà eu il y a 4 ans. Il avait voulu limoger.
Mais n'oubliez pas que Trump, c'est un homme d'affaires.
C'est-à-dire qu'en fait, ça, on a pas oublié.
Un businessman, donc, il met la pression.
Il n'a pas échappé.
Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant la campagne, on n'a pas trop parlé ici, mais j'ai vu justement cette interview qui est très, très claire. En fait, Trump, il ne dit pas qu'il va augmenter les droits de douane comme ça.
Ah si, il l'a dit.
Non, attendez, il met une condition. Il va dire, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis ? C'est que le dollar, ça reste la réserve de change mondiale. Ça reste la monnaie de transaction. Et donc, comme il sait que ça pourrait changer, notamment à l'avantage du yuan ou d'autres, etc., il est en train de dire aux entreprises et aux pays, entre guillemets, qui commercent avec les États-Unis, si vous ne gardez pas le dollar comme réserve de change, comme moyen de transaction, là je vais vous mettre des droits de douane.
Non, c'est donc, en plus.
Vous avez dit ça sur des pays en développement.
Non, c'est les deux menaces. C'est pas l'une ou l'autre.
Non, d'accord.
C'est bien ça le problème. Est-ce qu'il va suivre ?
C'est ce que je voulais dire.
J'espère que non, mais.
C'est ça.
Il a les deux menaces en parallèle.
Oui, justement, il a fait cette menace pour négocier. Évidemment, c'est ça le vrai enjeu. Alors après, moi par contre, ce qui m'inquiète, je veux dire très honnêtement, c'est pas tellement ce qui va se passer en Chine, parce qu'on l'a vu la dernière fois quand Trump avait augmenté les droits de douane justement contre la Chine.
C'était rien passé au final.
Parce que le yuan avait baissé autant que les droits de douane avaient augmenté, donc finalement ça s'est pas vu. Ce qui est inquiétant, c'est l'Europe.
Des écoliques commerciaux, le déficit commercial américain, c'est pas du tout résorbé.
Tout à fait. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est l'Europe, parce qu'encore une fois, je pense que les Américains ils sont en train de négocier avec les Chinois, avec les Indiens, certainement avec les Canadiens ou plutôt l'Amérique latine, on va dire. Mais l'Europe, on sera le dindon de la farce. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on risque encore une fois, déjà on n'a pas beaucoup de croissance, et on risque de souffrir davantage de ce point de vue-là, et donc Encore une fois, pourquoi on a créé la zone euro ? C'était pour ça. C'était pour concurrencer les États-Unis. C'est pour concurrencer le dollar. Mmh. Et malheureusement, on se fait une zone euro, une union monétaire avec des, je dirais, des règles qui ne sont pas respectées en plus. Et puis, on est des réglementations très tatillonnes. Et finalement, on s'est complètement planté.
Ouais, mais il faut une industrie. Il faut un minimum industriel pour effectivement.
Mais c'est ça. Voilà. Mais regardez, depuis 99, hein, qu'on a créé la zone euro, le PIB américain a augmenté de plus de 100%. Mmh. Sur la même période, le PIB de la zone euro a augmenté de moins de 50%.
C'est ça.
On est compte, du simple au double. 50 points d'écart, ouais. C'est énorme. Donc ça montre bien malheureusement l'échec, je dirais, de cette zone euro, de l'Europe. On n'a pas été capable de faire de la croissance.
Benjamin Correa, est-ce que là, pour le coup, l'Europe est attendue au tournant, plus que jamais, il y a le rapport Draghi, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et ce qu'on nous vend, c'est les 100 premiers jours de la Commission, dire en gros, ça passe ou ça casse. On a une nouvelle Commission, on a une nouvelle équipe, etc. Est-ce que vous y croyez à ça ?
Non, moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout.
Pourquoi ?
Je pense que parce que l'Europe, elle est soumise à des lobby à la fois économique et maintenant directement politique. Hein, je veux dire, la présidente de la Commission, elle est entourée.
Ursula von der Leyen.
Oui, elle est entourée de représentants de la politique et de l'industrie allemande. Elle s'en cache même plus. Enfin, je veux dire, c'est l'invasion complète. Mmh. La France compte plus pour rien. Bon, donc, politiquement...
Ces gens-là, ils veulent pas perdre face aux États-Unis. Ils veulent ces gens-là, ils veulent pas que l'Europe
perde. Ah, mais bien sûr qu'ils veulent... Non, mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent ? Oui, non, mais je pense pas qu'ils veulent. Hein.
Ouais, voilà.
Encore que, hein, je veux dire, vous avez la mémoire courte, en tout cas, moi, je l'ai un tout petit peu plus longue. Mmh. Lorsqu'on a nommé à la direction des technologies de l'information un ancien lobbyiste de Intel, Amazon, etc., et qu'il a fallu taper sur la table trois fois pour que Van der Leyden la retire du jeu, moi, je me suis posé des questions. Hein. Je crois que j'ai pas été le seul.
Bon, vous parlez de l'américaine qui devait être la directrice du cabinet de Margaret Vestager.
Bien sûr,
c'est de ça
que je parle.
Ouais,
et on peut donner de nombreux exemples. Ouais. Et on peut donner de nombreux exemples. Je veux dire, les intérêts américains sont extrêmement bien représentés au sein de la Commission européenne. Moi, je vais tout vous dire. Hein. Moi, j'ai travaillé avec la Commission j'ai presque envie de dire non pas corps et âme parce que ça serait beaucoup dire, mais avec beaucoup de conviction. Mmh. Bien. Et je suis arrivé à la conviction que je vais employer un mot qui a été employé par quelqu'un de bien plus important que moi, que l'Union européenne est devenue un machin, c'est-à-dire que c'est là,
bon, et donc ça
c'est là, c'est là, on ne sait pas très bien
rester,
à quoi ça sert,
et
ça va rester.
Bon.
Voilà.
Alexandre Malafaille,
non, pour compléter ce que vous disiez, c'est que moi je suis très frappé au niveau des Allemands par le côté courte vue, en fait, des dirigeants allemands depuis une vingtaine d'années, et je trouve que ce côté courte vue, on l'a aussi beaucoup malheureusement avec Madame von der Leyen. Il n'y a pas cette espèce de capacité à avoir une vraie projection stratégique, et je trouve qu'effectivement ils prennent des décisions qui les mettent pas en bonne position. Il y a qu'à voir la réalité allemande aujourd'hui, et au niveau européen. C'est frappant.
Ça justement, Marc, ça, aussi, ouais, quand on le voit, là-dessus. Oui, c'est-à-dire que ça c'est la clé, c'est que l'Allemagne va mal. Oui, l'Allemagne, d'un point de vue économique,
ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Pardon.
Oui, tout à fait. Ils ont abandonné le nucléaire, ce qui était une erreur. Maintenant, qu'ils payent aujourd'hui et le gaz russe, etc. Bon, peu importe. Mais l'Allemagne va mal économiquement et politiquement. Donc c'est ça qui est très dangereux, parce que là, il y a des élections en Allemagne au mois de février. Mmh. Ça risque d'être comme en France, le Capharnaüm. Donc les deux premiers.
Ah bah la CDU visiblement est très bien placée pour reprendre le pouvoir.
Globalement, donc, en plus, si ça faire des coalitions, c'est pas pareil.
Certes, mais le problème, c'est que toujours est-il qu'en Allemagne.
Vraiment, les Allemands s'attendent à sortir de la crise politique justement au printemps.
Sauf que j'y étais dernièrement et je me suis rendu compte, c'est-à-dire quelques mois, quelques années que ça dure, c'est que nos amis allemands, ils nous aiment de moins en moins. Mmh. Donc ils sont prêts à avec la France. Et comme on n'a pas de stabilité politique et même pas de gouvernement stable, alors vous imaginez que là, à mon avis, ça va être très très compliqué pour, même, j'ai envie de dire, sauver la zone euro. Moi, je pense que la zone euro, aujourd'hui, elle est en danger. Mmh. Voilà. Et je pense que si on continue comme
Marc.
Ça,
2025,
ça j'ai envie de dire même pas. Même pas, c'est un machin, ça va rester.
Ah ouais, alors là, ça sera encore pire.
Bon. Allez, 19h53, on a commencé l'extra time, là, justement. On est passé un peu en mode coup de gueule et coup de cœur. Alexandre Malafaille.
Écoutez, 30 secondes. Un coup de gueule contre François Bayrou. On l'a beaucoup dit, mais déjà, j'aimerais comprendre ce qui lui a pris dans la tête pour aller à Pau pour un conseil municipal. Alors le bilan carbone, c'est pas terrible. La consécration du temps et des moyens, c'est pas terrible. Le coup politique est assez désastreux. Surtout qu'il avait quand même une crise assez lourde à gérer. Qu'il aurait pu faire son conseil municipal en visio, personne ne lui aurait reproché. Enfin, c'est incompréhensible. Donc, dire ça en dit là encore une fois très long de la déconnexion de la réalité un peu déformée que ces gens-là ont du monde. Il fallait le voir hier à l'Assemblée nationale. Le bras comme ça, recoudé, accoudé comme ça pour regarder les autres parler et lui donner des leçons. Ça n'allait pas. Ça va pas du tout.
Bon, on a compris. Marc Toiti.
Oui, moi aussi, j'ai un coup de gueule, mais qui est presque similaire, mais bon, pas politique, on va dire, sur la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France a dit cette semaine, à début de semaine, qu'il fallait augmenter les impôts. C'est-à-dire que pour réduire le déficit public, il a dit qu'il faut augmenter les impôts. Et là, encore une fois, il prend un parti politique, il prend un parti. Alors que le gouverneur de la Banque de France, c'est justement la Banque de France, comme toutes les banques centrales, sont les gardiennes du temple.
Ouais, c'est ça.
Elles n'ont pas à se mêler de politique. Il aurait pu dire, peut-être faut augmenter les impôts, puis aussi baisser les dépenses publiques, éventuellement. Moi, je suis plus d'ailleurs pour cette vision du monde. Mais encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a une situation où et les politiques et les dirigeants des banques centrales ou les dirigeants européens, malheureusement, ne sont plus à leur place. Et donc, ça ne va pas améliorer l'image et la confiance qu'on a en eux, malheureusement.
Il fait de la politique, peut-être, parce qu'il va en faire tout court, justement.
Ah,
merci.
Alors, à ce moment-là, il faut s'engager, mais il faut pas rester gouverneur.
Eh bien, moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur vis-à-vis de la Cour d'appel de Bordeaux, qui vient de déclarer que les bassines, notamment celles de Sainte-Soline, sont parfaitement illégales parce qu'elles n'ont pas recueilli l'ensemble des autorisations nécessaires. Alors, pour le moment, le motif avancé, c'est des considérations qui concernent le non-respect de la biodiversité. En tout cas, pour le moment, la construction est arrêtée. Ça évitera de nouveaux morts et de nouveaux blessés pour l'été qui vient. Et j'espère qu'on aura le temps de trouver une solution raisonnable pour l'ensemble des partenaires concernés. Voilà.
Et ben voilà, le coup de cœur est passé. Merci à tous les trois. Marc Toiti, Alexandre Malafaye, Benjamin Coria. 19h55, je vous redonne les principaux titres de l'actu avant de passer la main à François Sorel et Tech & Co. On vous en parle donc depuis ce soir dans l'actualité automobile après des mois de discussion. Nissan et Honda envisage donc maintenant de passer à l'étape d'après, de carrément fusionner pour rattraper notamment le retard dans l'électrique. Nissan, Honda et Mitsubishi formera à E3 le numéro 3 mondial de l'automobile en termes de volume de vente, derrière Toyota et Volkswagen. Le titre Renault, le principal actionnaire de Nissan, a pris jusqu'à 6% aujourd'hui sur les marchés à Paris. Ça bouge aussi dans le secteur bancaire, puisque la banque italienne UniCredit continue de monter au capital de l'allemande Commerzbank, avec désormais 28% des parts de la banque. Les autorités allemandes dénoncent, je cite, une nouvelle action non concertée et inamicale d'UniCredit, qui maintient par ailleurs sa volonté de racheter la banque italienne Banco BPM. En France, c'est un petit événement qui va se produire ce vendredi, puisqu'après 12 ans de retard, l'EPR de Flamanville va enfin être accordé au réseau. Le réacteur va atteindre vendredi 25% de sa puissance maximale et c'est à ce moment-là que Flamanville sera couplé techniquement, opérationnellement au réseau. Et puis pour finir, la loi spéciale a été définitivement adoptée cet après-midi au Parlement après le vote du Sénat. Le texte a été adopté à l'unanimité. Les sénateurs appellent maintenant à voter au plus vite un budget pour 2025. Bientôt 19h57, dans un instant, toute l'actu d'Atech en direct sur BFM Business et Tech & Co avec François Sorel. L'info revient demain matin en direct à 6h avec Laure Closier. Vous retrouvez Guillaume Paul à 18h pour Good Evening Business. Très bonne soirée.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.